SEMcast, les podcasts du SEM.
Service, école, médias.
SEMcast,
votre rendez-vous numérique et pédagogique.
Alors, merci à tous et toutes d'être là. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un entretien qui est enregistré. Donc, quand vous prendrez la parole, on vous donnera des micros pour que vous puissiez être entendus par ceux qui écouteront à distance, que je salue d'ailleurs par anticipation. On accueille Sylvie Denkinger et Benoît Bediou de l'Université de Genève qui viennent nous parler des jeux vidéo, amis ou ennemis des capacités d'apprentissage. Alors, on a reçu beaucoup de questions en amont et vous les avez catégorisées en sous-thèmes. On vous mettra la liste après, mais en gros, quel est l'état des lieux? Quel est l'effet des AVG? Vous réfléchirez à ce que cet acronyme peut vouloir dire, mais vous nous direz, vous donnerez la réponse. Quel est l'effet des AVG, donc? Où en est la recherche? Est-ce qu'il y a des effets négatifs? Quel est l'impact des différents supports? Comment est-ce qu'on peut gérer l'utilisation? Et puis, si on a le temps, on parlera aussi un petit peu d'e-sport. Il y a fait quelques questions sur l'e-sport. Donc, pour qu'on puisse couvrir tous ces champs-là, donc, l'idée, c'est un entretien. Donc, c'est vous posez directement les questions, on vous passera le micro à nos deux intervenants. Donc, vraiment, autant que possible, moi, je ne pose pas de questions, c'est vous qui les posez. Mais vous essayez juste d'être dans le sous-thème, de respecter un peu la structure qui a été donnée, comme ça, on arrive à tout couvrir. Et puis, moi, je fais un peu la gardienne du temps pour qu'on fasse tout. Voilà. Je propose que vous vous présentiez. Je ne sais pas, Sylvie Denkinger, si vous voulez commencer.
Oui, pour commencer. Bonjour, donc moi c'est Sylvie Denkinger, forcément. Mon background n'est pas forcément dans la recherche, je suis arrivée dans la recherche tout récemment puisque je suis seulement en deuxième année d'un doctorat. Avant ça, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans avec des enfants en difficulté d'apprentissage et plus spécifiquement des enfants avec déficit d'attention. Et là, mon travail se focalise sur les mécanismes des jeux vidéo d'action. Alors, on parlera peut-être un peu plus en détail après, mais je vais laisser Ben se présenter.
Alors, bonjour à tous, moi c'est Benoît Bediou. Je travaille au laboratoire donc, de Daphné Bavelier, le Brain and Learning Lab, depuis 2011. Moi j'ai fait une thèse, je suis formé en biologie au départ, donc je suis arrivé sur la psychologie un petit peu plus tardivement. Donc, j'ai une thèse en neurosciences. Que j'ai fait en psychiatrie, donc sur des maladies mentales, et je me suis ensuite orienté vers l'effet des technologies sur le cerveau et le développement cérébral, notamment avec l'effet des jeux vidéo d'action sur la cognition, et puis là, on commence à étudier sur des personnes un peu plus jeunes, et puis d'autres types d'écrans, donc on a intégré les questions qu'on a reçues qui sont relatifs à d'autres supports, et on essaiera de les aborder aujourd'hui. Mais je vais laisser Sylvie commencer, et puis j'espère que vous aurez des questions et qu'on y répondra comme on pourra.
Je vais vous faire juste une petite présentation, en gros, tout d'abord, qui joue à quoi et à peu près quand. On voit qu'il y a beaucoup de différentes sortes de jeux vidéo. Il y a des jeux qu'on appelle stratégie, il y a des jeux qu'on appelle des puzzles, il y a des jeux qu'on appelle d'action, il y a des jeux où on peut jouer, où on joue sur une plateforme, donc on doit réagir assez vite. Il y a des jeux qui ne sont pas du tout plateforme-based et on a le temps de réfléchir avant de faire une action. Voilà, il y a tout plein de jeux qui ont été catégorisés en plusieurs catégories. Seulement, c'est une industrie qui vraiment se développe très, très vite. Et il y a beaucoup de jeux de plus en plus hybrides qui se développent et ça devient beaucoup plus compliqué de catégoriser ces jeux. On verra après un peu plus en détail. Alors, qui est-ce qui joue ? Là, vous avez les chiffres pour les États-Unis. C'est un rapport qui sort chaque année. On voit que 65% des Américains jouent. En Europe, c'est un peu plus bas, mais ce chiffre date d'une année avant. Donc, je pense que maintenant, ça doit être un petit peu plus que 31%. La moyenne d'âge des gens qui jouent, c'est 31-32 ans. C'est à peu près pareil. Et on est quasi à la parité entre les garçons et les filles. On voit qu'il y a 53% de garçons pour 46% de filles. Pour l'Europe, c'est à peu près pareil. Il y a aussi les différentes catégories de jeux. On voit que les jeux qui sont le plus joués sont plutôt des jeux de puzzle. Ensuite viennent les jeux d'arcade, viennent les jeux de chance où on exerce des compétences. Et puis les jeux qui nous vont nous intéresser, qui sont les jeux de tir, ce qu'on appelle de tir à la première personne ou à la troisième personne. Et c'est ça qu'on appelle, nous, des jeux vidéo d'action. Parce que vous voyez qu'il y a une catégorie qui s'appelle action, qui regroupe les jeux, par exemple, de combat. Et pour nous, ça n'entre pas dans la catégorie des jeux vidéo d'action. et on verra peut-être après. Quoi ? Oui. Oui.
Pour les débutants en jeu vidéo, un jeu vidéo, vous pouvez donner juste un exemple, qu'est-ce que c'est un jeu vidéo puzzle, un autre d'arcade parmi les archi connus là ? Parce qu'il y avait le dessin avant, mais c'était écrit trop petit.
Oui, oui, c'est juste pour montrer les bulles, et c'est pas du tout, voilà, c'est juste un...
Un des exemples de jeux de puzzle, ce serait Tetris. En fait, il faut se baser sur les couleurs. Donc, les jeux de puzzle, l'exemple le plus connu, c'est Tetris. Pour les jeux monde ouvert, c'est World of Warcraft. C'est des jeux où il y a moins de règles et où les joueurs peuvent jouer de façon différente. C'est des jeux beaucoup plus récents que les jeux comme Tetris. Et il y a aussi une chronologie sur l'apparition de ces jeux. Tous ces jeux-là n'existaient pas au début. Au début, il y a quelques genres, et maintenant, ça a explosé sur les dernières années. Donc, sur les jeux de stratégie, il y en a pas mal. Il y a League of Legends, qui est un des plus connus, mais qui est un jeu mixte, parce qu'il combine aussi des parties simulation et aussi une partie action dans le jeu League of Legends. StarCraft est aussi très connu. Et puis, pour les jeux de simulation, vous avez beaucoup de jeux de sport, comme FIFA, les jeux de simulation de vie, comme les Sims. On a mis les noms des jeux les plus courants, mais qui sont des jeux assez récents, à savoir que vraiment, ça, c'est ce qui représente l'univers du jeu vidéo aujourd'hui. Et probablement que dans un an ou deux ans, il y aura encore des nouveaux genres. Et dernier point, cette classification n'est pas une classification universelle acceptée par tout le monde qui fait consensus. Il y a énormément de classifications, et c'est une des difficultés pour les chercheurs, c'est que ce que nous, on étudie, qui est le tout petit cercle rouge à l'intérieur du gros cercle rouge, qui sont les jeux de tir à la première et à la troisième personne, c'est un genre qui est assez récent finalement, qui est apparu en 2007-2010, mais qui représente, je crois que c'était 40% des... qui représente maintenant à peu près 40% des joueurs. Donc c'est vraiment un genre très populaire, en espérant que j'ai répondu à votre question.
C'est parfait, ouais. Merci beaucoup.
À savoir qu'il y a aussi une évolution. Au départ, les gens jouaient plutôt à une seule catégorie de jeux, et maintenant, de plus en plus, les gens jouent à plusieurs catégories de jeux. Il peut aussi y avoir ça qui complique un peu les choses. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, nous, ce qu'on qualifie comme jeux vidéo d'action, enfin, je les sorte en anglais, c'est vraiment...
Si vous l'aviez
le fameux action video games, voilà. Ce sont vraiment des jeux de tir à la première et à la troisième personne, parce que ce type de jeu, on s'est rendu compte dans la recherche, a aussi des effets positifs, parce qu'au début, la recherche voulait beaucoup chercher à montrer les effets négatifs de ces jeux. Mais juste pour vous donner un rapide historique, et puis après on ouvrira les questions, comme ça on ira directement aux choses qui ne sont pas encore claires pour vous. Historiquement, c'était début des années 2000, c'est complètement par hasard, un peu, qu'on a découvert qu'il y avait cet effet positif. Une étude qui voulait étudier certains effets sur la cognition s'est rendue compte qu'elle avait un groupe de participants qui avait des résultats vraiment élevés par rapport aux autres, et ils sont intéressés à savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec ce groupe de participants ? Et en fait, ces participants jouaient tous régulièrement aux jeux vidéo d'action. Je crois que c'était Call of Duty à l'époque. Et du coup, ça a été le début d'une recherche de dire, mais est-ce qu'il y a un lien entre ces types de jeux vidéo d'action et une cognition qui serait améliorée sur certains points ? Et toutes les premières recherches ont fait ça. Donc, on a pris des jeux qui jouaient à des jeux vidéo d'action, leur ont fait passer différentes tâches cognitives. Et puis, on a découvert qu'il y avait, je crois que j'ai mis juste pour que ce soit... qu'on arrive à améliorer la perception visuelle, les tâches multitasking, donc faire différentes choses en même temps, sont améliorées aussi, la rotation mentale. Et ce qui nous intéresse, nous, beaucoup plus dans notre labo, c'est une amélioration de ce qu'on appelle le contrôle attentionnel. Sauf que toutes ces premières études montraient un lien. Donc on sait que si on joue aux jeux vidéo d'action, on va avoir ces points des fonctions exécutives qui vont être améliorées. Mais on ne sait pas si ces fonctions sont améliorées par le fait de jouer au jeu, ou est-ce que c'est les personnes qui, à la base, ont des fonctions déjà plus élevées qui sont attirées par ce type de jeu. Donc il y a toute une deuxième série d'études qui ont été développées où on prenait des gens qui n'avaient jamais joué et vous les séparez en deux groupes. Un groupe, vous leur faites jouer à un jeu vidéo d'action pendant un certain nombre d'heures. L'autre groupe, on va leur donner ce qu'on appelle un jeu contrôle. Donc ils vont jouer, souvent c'est les Sims ou Tetris, les choses comme ça qui sont pris, ou Tetris. Et puis, vous les faites revenir après chaque entraînement et vous retestez sur les mêmes tâches cognitives et vous regardez si on retrouve ces effets. Et on retrouve effectivement ces effets où on a ces points qui sont améliorés chez les personnes à qui on a fait jouer des jeux vidéo d'action. Donc, en gros, maintenant, vous pensez bien qu'il y a un intérêt surtout à améliorer le contrôle attentionnel dans différents domaines. Typiquement, moi qui ai beaucoup travaillé avec des enfants en déficit d'attention, est-ce qu'il n'y a pas une manière d'utiliser ça pour améliorer l'attention chez ces enfants, voire chez des adultes avec un TADA ? Il y a aussi un intérêt pour tout ce qui est la population plus âgée, pour peut-être prévenir un déclin cognitif. Et il y a aussi un intérêt côté plus clinique pour aider à la réhabilitation, par exemple, après un accident ou si vous avez un AVC. Sauf que vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire jouer un jeu comme ça à des enfants. Et pour les personnes âgées, c'est aussi compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément la capacité motrice ou la vitesse. Ça va très, très vite. Il faut faire plein de choses en même temps. Il y a beaucoup d'informations qui viennent. Et ce n'est pas évident. Donc, l'idée, c'est vraiment de maintenant plutôt de diriger la recherche vers... est-ce qu'on ne pourrait pas développer des jeux qui ne seraient pas... enfin, qui n'auraient pas tout ce côté agressif, mais qui auraient les mêmes mécaniques qui sont spécifiques à ce type de jeu pour pouvoir obtenir les mêmes effets. Et grosso modo, il y a plusieurs projets dans le lab. On a un projet qui travaille sur l'apprentissage de la lecture, donc qui a développé un jeu qui a déjà été testé, qui a fonctionné sur des enfants avec une dyslexie, qui est maintenant en train d'être produite à plus large échelle dans différents langages, parce que ça avait été fait en italien, et avec une population tout venant. Il y a un projet qui travaille sur est-ce qu'on peut diminuer le biais négatif qu'ont les personnes qui vivent des situations d'angoisse à travers du jeu vidéo d'action, enfin type action. Et puis, mon projet à moi, qui est plus à chercher à déterminer, c'est quoi. On a trois composantes où on pense que c'est ça qui est en jeu et on essaie de les intégrer dans un jeu pour voir si c'est vraiment la combinaison de ces trois composantes qui va permettre d'obtenir cet effet. Grosso modo, c'est un peu ça.
En termes d'application, il y a eu aussi, puisqu'on en parlait juste avant, il y a eu des applications qui ont été développées au niveau de la perception. Donc, un des premiers effets qui a été observé, c'est sur la perception visuelle de bas niveau, donc la sensibilité au contraste, qu'on améliore avec des lunettes. Et donc, ça a été un résultat assez fort, parce que pendant longtemps, on pensait que les gens qui avaient des troubles visuels, notamment l'amblyopie, qui est liée à une déficience visuelle d'un œil pendant le développement, on pensait que ces troubles-là n'étaient plus guérissables que par de la chirurgie ou des méthodes vraiment lourdes. Et donc le fait qu'on trouve qu'avec des jeux vidéo, on arrive à améliorer ces fonctions qui sont relativement solides et ancrées, a conduit à des applications pour la réhabilitation de personnes adultes. Donc après, c'est des jeux qui sont vraiment très compliqués puisqu'on utilise des appareils qui stimulent les deux yeux de façon intermittente. Mais donc il y a des applications pour ça, il y a des applications pour le diagnostic et le traitement du TADA, pardon, donc des troubles de déficit de l'attention. Ça commence à être utilisé pour la formation en médecine, pour les chirurgiens en laparoscopie également. Donc il y a de plus en plus d'applications qui sont développées dans différents domaines à partir du jeu vidéo d'action. Et donc les ingrédients, effectivement, la vraie question, c'est quand on a un jeu comme ça qui est très complexe, où il y a énormément de composantes, c'est d'identifier quelle est la composante, quel est l'aspect du jeu qui est responsable des effets bénéfiques, quel est celui qui est responsable des effets potentiellement négatifs. Et donc, c'est tout le travail de thèse de Sylvie d'identifier ces ingrédients critiques.
À savoir que c'est compliqué de reproduire exactement un jeu vidéo d'action parce que la mécanique est très, très complexe. Il y a un développement qui est fait dans ces jeux pour maintenir la personne motivée, pour vous maintenir à un niveau de challenge, pour faire en sorte que vous ayez un feedback qui soit régulier. Il y a beaucoup d'incertitudes dans les événements qui se produisent. Et en recherche, ce qu'on arrive à reproduire dans nos jeux, c'est une version un peu pâle d'un jeu vidéo d'action, parce que bien sûr, on n'a jamais les moyens qui sont mis pour développer quelque chose qui soit aussi complexe que ce que vous pouvez voir là. Donc on reste quand même avec toujours cette difficulté.
On a des budgets qui sont de l'ordre du cinéma et des grands films blockbusters maintenant, qui sont des jeux qui sont à plusieurs centaines de millions. Vous imaginez bien qu'en laboratoire de recherche, on ne peut pas reproduire ce genre de choses.
Si je comprends bien, on n'a aucun jeu existant qui n'aurait pas ces effets négatifs, du coup. Ou des jeux d'action qui ne seraient pas forcément du tir où on tue des gens.
Alors, dans les jeux commerciaux, ça a commencé à apparaître parce qu'en fait, y a des fabricants de jeux qui se sont rendus compte qu'il y avait différents âges de public. Et y a des jeux de tir où on ne tire pas des balles, mais on tire de la peinture, par exemple, pour ne pas donner des noms de jeux. Et qui reproduisent un petit peu cette mécanique où on peut jouer à plusieurs joueurs et peindre des bâtiments, essayer de colorer toute une ville d'une couleur. Mmh. Donc, C'est en train de se développer, mais bizarrement, en fait, l'industrie du jeu a commencé par ces jeux relativement violents. Et en fait, comme ça marchait et que ça se vendait très bien, ils n'ont pas cherché à diversifier. Donc, nous, on est arrivé derrière sur les jeux commerciaux qui existaient et on est limité par ce qui existe. Mais c'est en train de se développer. C'est juste que c'est beaucoup plus lent parce qu'il y avait moins de public au départ et ça commence à se...
Il y a aussi dans le jeu du lapin crétin, il y a certains sous-jeux qui sont considérés comme ayant des caractéristiques, donc pas tous, mais certains qui sont considérés comme ayant des caractéristiques des jeux vidéo d'action. Donc il y a effectivement un peu par-ci, par-là.
Lequel ?
Fall Guys.
Alors il sera plutôt dans les...
Un jeu récent, PEGI 3, où il y a des mécaniques assez proches de ce que vous listez là, sans tir. C'est un Battle Royale
Il y a eu... En fait, le débat sur les Battle Royale est arrivé avec Fortnite, parce que c'est des jeux qui ont rajouté une nouvelle composante qui n'existait pas, qui était dans les jeux de Battle Royale, on se battait. Et maintenant, on peut construire. Et en fait, du coup, il y a des gens qui jouent pour construire, des gens qui jouent pour se battre. Et en fait, le type de jeu va avoir un impact sur les effets qu'on va observer. Et donc maintenant, on a des jeux qui peuvent se jouer de façon différente. C'est plus tant le jeu qui cause l'effet, c'est la façon dont la personne joue. Et donc, ouais, je ne connais pas particulièrement ce jeu précis, mais voilà, les Battle Royale, il y en a de plus en plus. Ils ont cette composante de... Enfin, ils ont une bonne partie des mécaniques du jeu d'action, mais après, la façon dont le joueur va les utiliser, va moduler les effets qu'on pourra observer.
Ma question, ce serait... Alors, vous êtes concentré sur les jeux d'action, enfin, tir à la première et troisième personne. Est-ce qu'il y a beaucoup de recherches sur les autres types de jeux, ailleurs que chez vous ?
Oui. Alors, il y a de la recherche sur les jeux d'action ailleurs que chez nous aussi, mais il y a de la recherche sur tous les jeux vidéo en général. On a fait récemment une méta-analyse où on a repris toute la littérature où ils ont comparé des jeux d'action à des jeux qui n'étaient pas des jeux d'action. Donc là, l'idée, c'est de tester des jeux d'action, mais en fait, ça, c'est sur des populations jeunes. Il y a pas mal d'études où ils ont testé des brain training games. Donc en fait, c'est un type de jeu qui est arrivé il y a on va dire une quinzaine d'années, maintenant une vingtaine d'années, qui sont des jeux d'entraînement cérébral. Et donc, le but du jeu n'était pas le loisir, mais était l'entraînement cérébral. Et du coup, il y a eu pas mal d'études pour tester est-ce que vraiment on améliore le fonctionnement cérébral et la cognition, l'attention, le contrôle moteur, enfin, différents aspects de la cognition. Et en fait, toutes les études sur les jeux d'entraînement cérébraux montrent qu'on s'améliore dans le jeu, mais quand on teste en laboratoire, on n'a pas d'effet. Donc en fait, ces jeux-là, ils ont une mécanique qui est relativement peu variable. Et en fait, on vous entraîne à faire une petite tâche et vous devenez très bon à cette petite tâche, mais dès qu'on modifie un petit peu la tâche, le bénéfice est perdu. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec les jeux d'entraînement cérébral, les mini-jeux. On a vu pas mal d'études sur les jeux casual games, les Candy Crush et ces jeux-là, qui ont surpris aussi l'industrie du jeu parce qu'ils sont devenus très populaires alors que personne ne prédisait qu'ils allaient se vendre, enfin, qu'ils allaient marcher. Et en fait, ces jeux-là, ils ont surtout une efficacité pour réduire l'anxiété, réduire la dépression chez des gens qui ne vont pas bien mentalement, mais ça n'améliore pas les fonctions cognitives. Donc en fait, il y a beaucoup de recherches, mais les effets des jeux dépendent du type de jeu, du type de personne, de population, etc. Pour les brain training, par exemple, on a des effets positifs chez des personnes âgées qui n'ont plus d'activité physique et intellectuelle. Et donc le fait de les stimuler un petit peu produit un bénéfice, mais chez des gens qui sont déjà actifs, on n'améliore pas grand-chose, ni avec les jeux d'action, ni avec les jeux d'entraînement cérébral, ni avec d'autres jeux. Et donc récemment, avec ces jeux hybrides, on a commencé à regarder donc, les jeux de stratégie, les autres jeux, et en fait, on se rend compte qu'il y a toute une gradation, en fait, entre le jeu d'action, le jeu de stratégie, le jeu de rôle, etc., plus les composantes et plus les mécaniques sont proches du jeu d'action, et plus on a des effets qui sont similaires. Donc c'est ce qui nous permet, nous, d'avoir confiance dans le fait que c'est vraiment la mécanique et pas le contenu violent, et on pourra en reparler par rapport aux effets sur l'agressivité, qui est responsable de ça. Et donc, du coup, voilà. Mais l'industrie du jeu ne cherche pas à améliorer le fonctionnement cérébral, il cherche à faire vendre, voilà. Donc, c'est pas du tout... Et maintenant, on commence à avoir des entreprises qui cherchent à créer du jeu à impact, alors d'impact écologique, d'impact cérébral, d'impact sur la santé mentale. Donc ça, c'est en train d'arriver. Ils se sont rendus compte du potentiel du jeu en termes de motivation et de vente.
Ouais. Le jeu d'action à la troisième personne, j'ai vu que, par exemple, StarCraft et League of Legends n'en faisaient pas partie.
Alors, dans les jeux d'action et dans les jeux de tir en particulier, c'est la perspective, en fait. C'est-à-dire, dans les jeux Call of Duty, par exemple, c'est un jeu où vous êtes à la place du personnage et donc toute votre vue est en perspective première personne. Les jeux à la troisième personne, c'est où vous voyez le personnage de dessus ou de derrière. Il y a des jeux maintenant qui vous permettent d'avoir le choix de la perspective. Donc les premiers jeux en perspective à la troisième personne, c'était des jeux où finalement vous n'aviez pas le mouvement et vous aviez juste le fait de viser, de tirer, de survivre, mais vous étiez sur un rail, etc., en troisième personne. Et ça a évolué vers la vision caméra par-dessus. Et maintenant, il y a la plupart des jeux, vous avez le choix entre ces visions-là.
StarCraft, c'est vu par-dessus troisième personne, mais ce n'est pas un jeu d'action.
Alors, ça dépend si ça suit le personnage ou si c'est juste une vue de map, en fait, où vous voyez tout l'environnement et où ça suit le personnage. Quand ça suit le personnage, c'est vraiment de la troisième personne. Et pour continuer sur la question qui était posée sur les effets, en termes de jeux d'action, il y a pas mal de jeux de voitures maintenant, où ils commencent à créer des jeux où on doit attaquer les autres voitures. Et donc voilà, même dans les jeux de conduite et de sport, il y a des composantes d'action. Et donc on a vu avec Mario Kart, par exemple, il y a des études qui ont montré des effets bénéfiques de Mario Kart. Donc il n'y a pas le côté violent, il n'y a pas le côté agressif. Pour rassurer certaines personnes quand même qu'on peut avoir des effets avec des jeux qui sont inoffensifs.
Peut-être juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, quand on peut très bien entraîner une personne dans une tâche spécifique et l'améliorer à cette tâche, c'est un peu ça qu'une grande partie de la recherche, largement dans le monde, essaye de trouver. C'est un peu le Saint Graal, c'est de trouver... En général, on arrive très bien à améliorer dans une tâche qui est quasi similaire, hein, mais si on change un petit truc pas, alors on s'est dit qu'il faut peut-être entraîner à un niveau plus élevé. Du coup, on essaye d'entraîner ce qu'on appelle des fonctions exécutives, souvent avec de la mémoire de travail. Il y a beaucoup d'entraînements qui travaillent sur la mémoire de travail en disant que c'est en lien potentiellement avec l'intelligence. Et la mémoire de travail, on l'utilise dans plusieurs tâches, mais les résultats sont quand même un peu mitigés. Donc on arrive à trouver, on parle de transfert proximal, donc c'est vraiment la même tâche, mais peut-être un peu différente, on va aussi l'améliorer. Mais si vous proposez une autre tâche qui a juste un peu moins de lien avec l'entraînement, vous allez avoir moins d'effet. Et puis bien sûr, tout le monde aimerait voir à l'arrivée un effet sur l'intelligence ou je ne sais quoi. Mais pour l'instant, on en est très, très loin, malgré le fait qu'il y a quand même des études qui, des fois, sortent en disant, voilà, on a trouvé qu'il y a un transfert distal, ce qu'on a un transfert plus lointain, et on arrive à améliorer la mémoire de travail, etc. Mais en fait, quand vous prenez des méta-analyses comme ici, qui reprend toute la littérature, les effets sont très mitigés ou sont vraiment beaucoup plus petits que juste une étude spécifique peut parfois donner comme résultat pour tout un tas de raisons. Donc c'est un peu... un peu la recherche, moi je le vois un peu comme la recherche du Saint Graal, celui qui trouvera le méca. Alors on n'en est pas du tout là avec les jeux vidéo d'action, mais quand même, il y a un transfert un peu plus lointain parce que toutes ces choses qui sont améliorées, en fait, ce n'est pas forcément des choses qu'on entraîne directement dans le jeu vidéo d'action. Du coup, c'était un peu surprenant de voir qu'on améliorait des choses dans différents domaines, pas seulement dans un domaine, et qu'il y a quand même, semblerait-il, un transfert qui soit un petit peu plus lointain que juste un transfert proche.
Dans les avantages, là, vous parliez de perception visuelle. Moi, je vois bien ce que c'est, mais c'est quoi la rotation mentale ?
Alors, typiquement, pour tester la rotation mentale, vous avez, c'est souvent utilisé, il y a une tâche comme ça dans les tests de QI, où on vous montre une forme dans un sens, et puis après, vous avez trois formes, et vous devez dire laquelle a vraiment été tournée dans un autre sens. C'est vraiment la capacité de visualiser dans un espace en trois dimensions.
Et en fait, c'est dans ces études-là, souvent, c'est des formes qui ressemblent à des Tetris, des cubes, mais qui sont en 3D. Et ce qui était surprenant, c'est qu'en fait, des gens qui étaient entraînés à des jeux d'action étaient meilleurs que des gens qui étaient entraînés à Tetris, sur des tâches de rotation mentale, parce qu'il y a la 3D qu'il n'y a pas dans le jeu Tetris, justement. Donc, c'est assez surprenant. Et en fait, ces capacités-là, c'est ce qu'on a mis ici dans cognition spatiale. Donc, c'est toutes les aptitudes qui vous permettent de manipuler l'information, mais aussi de vous déplacer dans un environnement, de retenir des emplacements différents, et des suites d'emplacements, etc. Donc la rotation mentale, c'est un des aspects de cette aptitude-là. Et donc c'est vrai que l'objectif, maintenant, quand on développe des jeux pour améliorer d'autres fonctions cognitives, c'est pas de rendre les jeux experts du jeu vidéo, c'est vraiment... d'être sûr que ce bénéfice-là, il puisse le transporter ailleurs. Et la théorie qui est testée en ce moment et qu'on essaye de clarifier avec la thèse de Sylvie, c'est l'idée que ces jeux-là, en améliorant l'intention, en fait, ils améliorent les capacités d'apprentissage. C'est-à-dire qu'une personne qui, et c'est ce qu'on a vu dans plusieurs études, les personnes qui sont entraînées aux jeux vidéo, quand on leur présente une nouvelle tâche, elles commencent au même niveau que des personnes qui n'ont pas été entraînées aux jeux vidéo d'action, mais très rapidement, elles arrivent à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ignorer, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est de la distraction, etc. Et donc l'idée qu'on arrive à améliorer l'apprentissage, ce serait vraiment particulièrement intéressant. Et les seuls D'autres activités où on a trouvé ce niveau de transfert, c'est la méditation, le sport, l'exercice physique. Et je crois que c'est à peu près tout. Il me semble qu'il y en avait un troisième, je ne sais plus ce que c'était.
En tout cas, ces deux-là. Les résultats dans la musique ne sont pas top.
Ah oui, voilà, il y avait la musique, la pratique d'un instrument de musique également. Donc voilà, c'est trois activités qui ont été associées à des bénéfices relativement généralisés sur différents aspects qui ne sont pas que ce qui est pratiqué.
Oui, moi j'avais deux questions. Une toute petite, c'est quoi la différence entre les deux types d'attention qui sont affichés?
Alors, c'est une très très bonne question, parce qu'il y a différentes formes d'attention qui sont étudiées en psychologie cognitive. Et nous, on a distingué deux types d'attention. C'est l'attention, ce qu'on appelle bottom-up, donc c'est l'attention ascendante, c'est l'attention en fait exogène. C'est quand quelque chose dans votre environnement attire votre attention, c'est une attention réflexe, qui est importante, hein, puisque c'est ce qui vous permet de réagir rapidement quand il y a un danger. Et dans les jeux, par exemple, de voir quand il y a quelque chose qui clignote et qui pourrait vous aider à survivre ou à détruire des ennemis. Et l'autre type d'attention, c'est l'attention top-down, donc c'est l'attention descendante, c'est là où vous choisissez de focaliser votre attention. Donc c'est l'attention endogène. Et en fait, ce qu'on a vu, nous, c'est qu'à travers cette méta-analyse, on a vu que finalement, le type d'attention qui était le plus amélioré, c'est l'attention volontaire, le contrôle attentionnel, c'est savoir où vous devez placer votre attention, à quel moment, pendant combien de temps, qu'est-ce que vous pouvez ignorer, etc. Et donc c'est ces deux formes d'attention. Mais il y a aussi une attention focale, qui est une attention très localisée, une attention distribuée, il y a une attention dans le temps, il y a une attention aux objets. Donc, il y a différentes formes d'attention, mais nous, on a contrasté ces deux types-là parce que c'est ce qui nous paraissait le plus pertinent pour les jeux et pour les facultés de transfert, en fait.
Merci. J'en avais une autre. C'était, vous avez partiellement répondu, du coup, juste avant que j'aie le micro. Ça me faisait justement penser au sport, ce que vous disiez, le fait d'être, de transférer, justement, un peu plus... Le choix de la bonne action à faire dans une situation nouvelle. Est-ce qu'il y a des comparaisons qui sont faites, pas pour dire c'est mieux le sport ou c'est mieux les jeux, mais...
Alors, il y a des comparaisons, je ne sais pas, mais on a un étudiant qui a fait sa thèse avec nous et qui était arbitre de basket et qui s'est intéressé à ces questions-là, justement, pour ces choses-là, et qui, du coup, a appliqué dans sa pratique et dans sa culture sportive, justement, la pratique du jeu vidéo pour entraîner ces capacités-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus d'équipes au niveau international qui utilisent le jeu vidéo maintenant pour former des sportifs. Donc, je ne sais pas si on peut parler de l'un par rapport à l'autre, mais en tout cas, c'est probablement additif et c'est bien de savoir qu'il y a plusieurs façons d'améliorer une fonction cognitive. Donc on peut combiner les deux et probablement... D'ailleurs, il y a des études chez les souris où ils ont développé des jeux vidéo. Ils ont montré qu'en fait, des souris qui courent en jouant à des jeux vidéo... Alors, c'est un jeu vidéo qui n'est pas du tout la même chose. Mais en fait, ils ont montré que les effets sont additifs. C'est-à-dire que vous avez un bénéfice de l'exercice physique, vous avez un bénéfice de jouer d'un environnement riche. Et si vous cumulez les deux, le bénéfice est plus que la somme. Et donc, il y a des effets de potentialisation. Et donc, entraîner des sportifs avec des jeux vidéo, probablement qu'il y a un gain encore supplémentaire à juste faire du sport ou juste du jeu vidéo.
Comment vous testez la capacité d'attention ?
Il y a énormément de tâches.
Ça, c'est un peu la difficulté. Ouais.
C'est des tests papier ou...
Non, c'est tout. Il y en a en papier.
Oui, alors on pourrait. Il y en a qui utilisent ça. Il y a les tests qui sont utilisés dans les tests de QI, ce qu'on appelle les tests de barrage, où vous devez repérer au milieu de plein d'objets un objet spécifique et en cocher le plus possible en un minimum de temps. Là, au labo, c'est plutôt des tâches, parce qu'on commence aussi à faire de plus en plus des études en ligne, donc les participants ne viennent pas. Il faut qu'on puisse faire ça tout sur un ordinateur. Souvent, on présente un certain type de stimulus et puis la personne va devoir répondre. Typiquement, le test qui est aussi utilisé pour le TADA, c'est ce qu'on appelle une tâche de go-no-go, donc il y a un stimuli. Vous avez un petit carré qui est flashé, et puis des fois, il est en haut, des fois, il est en bas. Et vous devez répondre que quand il est en haut. Vous appuyez sur la barre d'espace que quand il est présenté en haut. Et typiquement, on peut soit mesurer l'attention soutenue, donc comment on arrive à tenir son attention sur le long terme en présentant beaucoup de fois le carré en bas, donc il ne faut pas répondre, et très peu de fois, tout à coup, il faut répondre. Mais on peut aussi tester ce qu'on appelle l'impulsivité ou l'inhibition en mettant beaucoup de fois le carré en haut, donc on met une réponse moteur en route, et tout à coup, il est en bas, et il faut empêcher la réponse moteur de se faire. Et ça, typiquement, c'est un test qui est aussi utilisé, entre autres, pour les diagnostics du TADA. La grande difficulté, c'est que, comme l'a dit Ben, il y a différents types d'attention. Il y a différents types de tâches. On peut paramétrer ces tâches de différentes manières. Vous pouvez décider de présenter 20% de go, 80% de no-go. Il y en a d'autres qui changent. C'est hyper compliqué. Chaque chercheur a ses propres définitions de paramètres pour ses tâches. Certaines tâches ne sont pas forcément 100% pures. On mesure l'attention, mais on mesure peut-être autre chose aussi. Du coup, c'est un peu compliqué à... Une tâche que nous, on aime beaucoup utiliser, qui est assez centrale dans le labo, c'est ce qu'on appelle la MOT, la Multiple Object Tracking Task. Donc, on doit suivre sur un écran, vous avez une sorte de... Je n'ai pas d'image là même. C'est à l'intérieur d'un cercle. Vous avez plusieurs points qui vont se mettre à bouger. Et on va vous flaguer peut-être deux points pour commencer, d'une certaine couleur, qui vont commencer à bouger, des points bleus qui vont bouger au milieu de points jaunes. Et puis, tout à coup, ils vont tous devenir jaunes. Et ça va continuer de bouger dans tous les sens pendant un certain temps. Et à la fin, vous devez retrouver quels étaient les deux points bleus. Et on peut jouer sur la difficulté. Alors, on va monter à 3 points à suivre, 4 points à suivre. On peut augmenter la vitesse. On peut jouer un peu là-dessus. Et ce que les études montrent régulièrement, c'est que quand vous jouez aux jeux vidéo d'action, vous arrivez à suivre en général 2. Si je ne me trompe pas, c'est en moyenne 2 points de plus qu'une personne qui ne jouerait pas... un jeu. Alors, entre autres, je ne vais pas tout vous les énumérer parce qu'il y en a plein, non. Mais c'est justement la question de savoir qu'est-ce qu'on va mesurer exactement. Est-ce que cette tâche mesure vraiment ce qu'on veut mesurer et comment on peut contrôler pour certaines choses aussi.
Et c'est aussi tout l'intérêt de ce type de travail, voilà. De méta-analyse où on peut vérifier que le résultat n'est pas lié à une façon de tester l'attention. Parce que là, on a chaque point, c'est une étude avec une tâche, une méthode différente pour mesurer l'attention. Donc, on peut s'assurer que c'est robuste. Et ce n'est pas sensible ou spécifiquement lié à la façon de mesurer ces fonctions-là.
Peut-être une dernière question, je vous propose, sur le sujet, parce que vous disiez qu'on pourrait passer une heure et demie rien que là-dessus, voire plus. Donc après, on va passer la suite.
On a une deuxième partie qui arrive juste après.
Est-ce que ces facilités qui sont présentes chez les personnes qui jouent aux jeux vidéo s'atténue si la personne ne joue plus aux jeux vidéo ou bien c'est des compétences acquises qui perdurent à travers le temps?
Alors, étonnamment, il semble que ça perdure. Je ne me souviens plus, mais, sauf que les études qu'on appelle de follow-up pour mesurer si ça tient, elles ne vont pas non plus super loin, mais elles ont été jusqu'à 18 mois, si je me souviens bien, les plus longues.
Il y en a une qui a été jusqu'à 5 ans.
Il y en a une qui a été jusqu'à 5 ans. Oui, voilà, juste. Ouais. Et alors, il semblerait que ça se maintienne quand même.
Une des difficultés, c'est que donc, quand on compare des gamers et des non-gamers, on n'a pas de contrôle sur leur jeu. Par contre, quand on fait des études d'entraînement, on peut, à la fin de l'entraînement, donc ils ont joué 50 heures sur 10 semaines, une heure par jour, etc., et on veut les retester un an après, il faut s'assurer qu'ils arrêtent de jouer. Et donc ça, c'est une des difficultés. Et en fait, il faut qu'on s'assure qu'ils reviennent au bout d'un an et qu'ils arrêtent. Donc en fait, on a des échantillons qui sont beaucoup plus petits à 5 ans, et on espère que la plupart des gens aient arrêté de jouer dans les deux groupes, mais sur tout ce qu'on a pu tester, enfin sur les quelques études qui ont fait 6 mois, 1 an ou 5 ans de suivi, les effets étaient encore là. Et donc, il y avait encore une différence entre les deux groupes. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on modifie la plasticité du cerveau. Donc, à partir du moment où vous l'avez modifié, c'est un effet qui va rester très longtemps et qui, du coup, va faire une très bonne transition avec la partie d'après, puisque tout ce qui est effet que vous avez quand vous jouez à un jeu vidéo, vous êtes très excité juste après et peut-être un petit peu agressif selon le jeu, ça, c'est des effets qui, au contraire, sont des effets d'activation et qui vont disparaître beaucoup plus rapidement. Ils sont moins durables sur le long terme.
Peut-être que vous voulez nous présenter la partie d'après. On passe au sous-thème des effets négatifs.
Sur les effets négatifs. Voilà. Depuis qu'on travaille sur les effets des jeux vidéo et qu'on communique, en fait, ces questions sur les effets négatifs sont de moins en moins présentes parce qu'on communique de plus en plus sur les effets positifs, donc ils sont un peu plus médiatisés maintenant. Mais dans les toutes premières conférences, en fait, même si on présentait des résultats qui étaient robustes et qui étaient vérifiés, qui étaient validés sur plusieurs études, systématiquement, la question revenait de « oui, mais ces jeux rendent violents, ces jeux rendent agressifs, est-ce que c'est pas problématique, etc. » Donc il y a eu énormément de recherches aussi sur cet aspect-là, à savoir que la recherche sur les effets négatifs des jeux vidéo ne s'est pas focalisée sur le jeu d'action. Au départ, ils se sont focalisés sur ce qu'ils appelaient les jeux violents. Et si on revient au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, ces deux aspects qui sont... pas orthogonaux, mais presque. C'est des aspects qui sont complètement indépendants l'un de l'autre. Le côté action, c'est vraiment la mécanique, c'est qu'est-ce que vous devez faire dans le jeu? Est-ce que l'information est au centre, en périphérie? Est-ce que vous devez jongler entre plusieurs tâches? Est-ce qu'il y a plusieurs buts à maintenir en mémoire? Est-ce qu'il y a une mission à remplir, etc. Le caractère violent, on est sur le contenu et le graphisme finalement et le type, le caractère moral et immoral des actions qui sont faites dans le jeu. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement déconnecté du caractère mécanique, etc. Et donc les premières études qui ont, comme pour le jeu d'action, les premières études qui ont été faites sont des études où on a comparé des gens qui jouaient beaucoup à des jeux violents à des gens qui ne jouaient pas du tout à des jeux violents. Et bah, comme on peut s'y attendre, les gens qui jouaient à des jeux violents avaient des scores d'agressivité sur des questionnaires, quand on mesurait sur des tâches. Alors des tâches d'agressivité en laboratoire, c'est des tâches où on a une compétition entre deux joueurs, on va dire, bah voilà, vous jouez avec un autre joueur, hein, une tâche de rapidité. Et celui qui gagne a le droit d'envoyer un son très fort dans les oreilles de l'autre. Et vous jaugez l'intensité du son et la durée du son. Et donc on mesure, bah c'est pas vrai, hein, y a un faux joueur en face, on met pas vraiment de son, il y a des comités éthiques hein, dans la recherche. Mais donc voilà comment on mesurait en fait l'agressivité juste chez des gens qui jouaient beaucoup à des jeux vidéo et chez des gens qui n'y jouaient pas. Et donc dans les études cross-sectionnelles, corrélationnelles, il y avait cette association. Des gens qui jouent beaucoup sont plus agressifs, ont des scores plus élevés en agressivité. Et donc c'était l'idée que bah, parce qu'ils jouent aux jeux violents, ils sont plus agressifs. Et puis quand on a commencé à contrôler pour le statut socio-économique, la personnalité et d'autres aspects de la psychologie des joueurs, en fait, on s'est rendu compte que des gens qui jouaient aux jeux vidéo violents étaient souvent des gens avec un statut socio-économique plus faible et des gens qui avaient une personnalité plus compétitive. Effectivement, c'est des jeux de combat la plupart du temps, donc c'est un jeu en opposition, contrairement aux jeux d'action où il y a une coopération d'équipe, etc. Donc, il y a vraiment cet aspect corrélationnel qui a été mis en place sur un type de jeu qui est différent du jeu d'action. Et du coup, comme on est sur des effets négatifs, ça a été très difficile de faire des études d'intervention comme on a fait en cognition. On ne pouvait pas arriver à un comité éthique et dire « on veut tester si ce jeu rend agressif ». Forcément, si vous testez quelque chose qui doit perturber la santé des gens, le comité éthique ne va pas trop accepter. Donc ce qui a été fait, c'est des études longitudinales où ils ont mesuré l'agressivité, donc la personnalité, le statut socio-économique, l'exposition aux jeux vidéo violents et non violents, à un moment donné, puis un an ou deux ans ou trois ans après. Et ils ont pu montrer qu'effectivement, les gens qui jouent à des jeux violents ont tendance plus tard à jouer aussi à des jeux violents et à aussi être plus agressifs. Et donc il y a des effets qui sont relativement faibles par rapport à ceux que nous on a observés en cognition, mais qui sont présents. Maintenant, la question est de savoir, c'est des effets longitudinaux. Est-ce que les gens qui, au départ, étaient plus agressifs et qui jouaient déjà plus aux jeux vidéo violents n'ont pas quelque chose d'autre qui est différent et qui fait qu'au niveau environnement, au niveau familial, au niveau contexte, qui pourrait aussi contribuer à ça. Et donc la seule étude, j'arrive sur votre question, la seule étude qui a été faite, qui a été vraiment une étude d'intervention, donc c'est une étude qui a été faite par des collègues allemands, où ils ont pris des jeux d'action et ils ont fait un entraînement pendant, je crois que c'était 30 heures, donc exactement comme on fait en étude sur les effets cognitifs. Et ils ont mesuré la cognition, l'agressivité, etc., avant-après, et ils ont trouvé zéro effet sur l'agressivité. Alors, c'est une étude, ce n'est pas une méta-analyse, c'est la seule intervention qu'on connaisse dans ce domaine-là. Donc, à prendre avec des pincettes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'évidence sur un effet causal sur le caractère agressif que sur les effets bénéfiques. Et le dernier point, c'est que le peu d'études qui ont essayé de tester ça en exposant des gens à des jeux vidéo, ils ont fait jouer des gens, ils ont mesuré juste après l'agressivité, et ils ont mesuré 10 minutes, puis 20 minutes, puis 30 minutes, et en fait, cette agressivité qu'on ressent après un jeu violent par rapport à un jeu non violent, souvent, elle disparaît au bout de 30 à 40 minutes. Et en tout cas, elle s'estompe. Donc c'est vraiment des effets qui sont très différents et qui pourraient, par contre, avec une exposition répétée, ça c'est toutes les théories actuelles qui n'ont pas encore été validées, c'est que si on expose de façon répétée à un jeu violent, on va désensibiliser à la violence dans la vie réelle. Alors ça a été montré juste après, juste après avoir joué, c'est-à-dire que si on vous montre des images violentes, votre cerveau, donc on enregistre des réponses cérébrales en IRM ou avec d'autres techniques, et on voit que quand il y a une image violente, le cerveau réagit. Et en fait, après avoir joué à un jeu violent, le cerveau réagit moins, et donc il y a cette idée de désensibilisation, mais c'est juste après. Quand on compare un an après, on ne sait pas, et ça n'a pas encore été fait, et on n'a pas de résultats probants. Pardon, si je n'ai pas répondu à votre question, je vous écoute.
Oui, non, par rapport à l'addiction de certaines personnes, est-ce que vous avez regardé ce point de vue, et puis également à la perte ou au gain au niveau social, est-ce qu'il y a eu un impact sur cette partie ?
Alors, c'est très... Merci d'aborder ce point, parce qu'en fait, on parlait essentiellement des effets négatifs. Et c'est vrai que... Pardon. Effets négatifs, en fait... Ah oui, j'avais oublié que tu avais remis ça. Effets négatifs, en fait, ça a été très biaisé vers l'agressivité et la violence, parce que nous, on s'intéresse aux jeux d'action. Mais vous avez raison, il y a énormément de questions qui reviennent, et pas spécifiquement sur le jeu d'action, mais sur tous les jeux, notamment les jeux en ligne, en réseau, à plusieurs, et sur ces questions d'addiction. Alors... Le terme addiction n'est pas reconnu pour ce qui est du jeu vidéo et des technologies. On va parler, alors c'est encore en débat, on parle d'addiction comportementale parce que les modèles viennent de l'addiction aux substances, mais on n'a pas les mêmes symptômes, on n'a pas d'effet de sevrage, on n'a pas des... Bon, bref, ça c'est juste pour la terminologie. Par contre, il y a effectivement certaines personnes, une partie de la population qui développe un comportement problématique avec le jeu vidéo. Donc nous, on préfère utiliser ces termes-là parce que ce n'est pas encore... complètement consensuel. Et au niveau du comportement problématique, il y a plusieurs aspects. Il y a le jeu excessif, notamment avec ces jeux gratuits où vous avez plein de récompenses qui incitent les jeunes à revenir jouer, à revenir dépenser de l'argent. Et donc là, on est sur du gambling, on est sur de l'addiction au jeu d'argent. Donc là, ce n'est pas le jeu vidéo qui est en cause, mais c'est les récompenses qui sont mises en place par les éditeurs de jeux dans le jeu vidéo. Et après, il y a tout le fait que ces jeux Candy Crush, etc., le jeu d'action, en fait, l'industrie du jeu, ils ont trouvé une recette magique qui est qu'ils ont trouvé à quel moment donner des récompenses pour que les gens continuent à jouer, à quel moment les faire gagner ou perdre pour qu'ils continuent à jouer et pour qu'ils jouent de plus en plus. Donc, y a un facteur dans le jeu qui va stimuler votre système de récompenses. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que des gens qui sont vulnérables, c'est-à-dire des gens qui deviendraient accro au jeu d'argent ou à une substance, etc., vont avoir plus de potentiel à développer une addiction aux jeux vidéo. Mais quelqu'un qui n'a pas cette vulnérabilité ne deviendra pas dépendant à un jeu vidéo spontanément. Ce n'est pas le jeu qui cause la dépendance. Et c'est pareil pour les médias sociaux, pour le smartphone, etc. C'est juste qu'on a une industrie derrière qui cherche... vous allez entendre beaucoup parler de ça dans les médias, l'économie de l'attention. Ils cherchent à attirer votre attention, que ce soit sur les sites internet avec des publicités, que ce soit en vous proposant un nouveau contenu à la suite du contenu que vous venez de voir, qui est adapté et basé sur ce que vous avez regardé précédemment, etc. Donc il y a tout ce côté-là. Et en fait, par rapport au côté social que vous demandiez, en fait, les jeux, on est arrivé dans un écosystème maintenant. Les gens jouent à beaucoup de jeux et jouent plus seuls. En fait, la plupart des joueurs jouent en réseau avec plusieurs autres personnes. Pendant le Covid, ça a été un important moyen pour beaucoup de jeunes de rester en contact avec leurs amis alors qu'ils ne pouvaient plus être... beaucoup de jeunes regardent des vidéos. Donc, c'est vraiment devenu un écosystème. Il n'y a plus que le jeu vidéo, ils ne font plus que jouer. Alors, moi, j'ai un enfant, un adolescent de 14 ans à la maison qui est passionné par le jeu vidéo. Il veut en faire son métier, il aimerait bien aller là-dedans. Il ne fait pas que jouer à des jeux vidéo, il crée des jeux vidéo, il regarde des vidéos, il regarde des gens qui jouent à des jeux vidéo, il regarde des compétitions de jeux vidéo. C'est vraiment tout un... Il regarde des tutoriels. Enfin, je veux dire, c'est devenu un vrai monde. Donc, il y a effectivement des craintes par rapport au fait qu'ils sont présents partout, on y a accès tout le temps, par le smartphone, par machin, et on passe de plus en plus de temps. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce qui est fait, pourquoi c'est fait, avec qui c'est fait et de cadrer ces utilisations-là. Donc, il y a des risques, mais ils ne sont pas spécifiquement liés aux jeux vidéo et ils ne sont pas plus importants que pour les autres, que les autres technologies.
Là, de mes souvenirs, mais j'ai plus fait une recherche récente, donc ça date de 2 ans. Le pourcentage d'addiction dans les jeux vidéo ressemble, est assez proche du pourcentage qu'on peut trouver pour les drogues, pour les jeux d'argent et des choses comme ça. Et il y a aussi, ils ont quand même, la recherche a quand même pu montrer 2 types de personnalités. Donc vous avez soit les personnalités qui sont très compétiteurs, qui vont avoir tendance justement à avoir plus de comportements problématiques avec le jeu, ou ce qu'ils appellent les gens qui sont plus... avec une mauvaise image de soi, et ça va plutôt être pour se détendre, qu'ils vont aller chercher justement et se mettre à développer, parce que c'est un peu une échappatoire pour eux. Donc, et puis comme tu disais, souvent en milieu socio-économique plutôt bas.
Donc en fait, on observe pas mal de ce qu'on appelle des facteurs de risque et des comorbidités, et c'est pas spécifique aux jeux vidéo. Les gens anxieux, les gens déprimés, les gens qui ont des troubles de l'attention vont utiliser les technologies différemment parce qu'ils vont rechercher quelque chose de différent. Et en fait, comme maintenant les algorithmes sélectionnent le contenu en fonction de ce que vous avez déjà regardé, on entre dans des boucles complexes. Et donc pour le jeu vidéo en particulier, il y a les motivations. Donc si les gens qui développent des utilisations problématiques, souvent sont des gens qui jouent pour échapper à la réalité ou pour une raison particulière. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de ressentir et d'investiguer plus que le temps passé. En fait, on est en train d'étudier ça depuis maintenant plusieurs années. Le temps passé sur le jeu vidéo n'est pas du tout prédictif du jeu problématique. C'est plein d'autres phénomènes. C'est votre santé mentale, les raisons pour lesquelles vous jouez, etc. Donc, bah, juste pour recadrer, le temps d'écran qui a été mis au centre de toutes les problématiques, on passe du temps, en termes de temps d'écran, en tant que chercheur, on explose tout le monde. On a plus de 10 heures d'écran par jour sur un ordinateur, on fait du multitasking, etc. Donc, c'est pas forcément une bonne mesure.
Je vais me faire le porte-parole de questions qui ont été posées aussi en ligne. Une enseignante d'expression orale nous fait remarquer qu'elle a l'impression que les élèves qui jouent plus aux jeux vidéo ont plus une tendance à être avachis ou au contraire, plus d'agitation. Donc, est-ce que c'est imputable aux jeux vidéo, effectivement? Est-ce que, comme pour ce que vous disiez là, c'est une corrélation peut-être, mais pas une causalité?
Le problème, c'est ça, en fait. C'est qu'on est dans un univers où on observe beaucoup de choses qui sont des associations et on a du mal à déterminer la direction de l'association et la causalité, en fait. Pour prendre un exemple, la corrélation la plus courante qu'on cite dans ces corrélations qui sont fictives, c'est que, en fait, dans les villes où vous avez plus de nids de cigognes, il y a plus d'enfants. Ça ne veut pas dire que les cigognes amènent les enfants, c'est juste qu'en fait, plus les villes sont grandes, plus il y a de cheminées, plus il y a de nids de cigognes et plus il y a de bébés, en fait. C'est deux choses qui vont ensemble. Et on est dans une société où on a de plus en plus... En fait, il y a de plus en plus d'enfants qui sont hyperactifs, ils sont stimulés de partout, il y a les critères de diagnostic, le taux d'hyperactivité au potentiel a explosé. On est surtout hypersensible à ça. On l'observe plus, on le mesure plus. Et donc, est-ce que ce n'est pas nous qui voyons, qui associons ce problème, et que comme les écrans sont là, et qu'on le voit bien et qu'on en entend parler partout, on va dire, y a deux choses qui co-évoluent, et on va dire que l'un est responsable de l'autre.
On a aussi des biais de perception qu'il faut qu'on soit prêt à reconnaître. Enfin, oui. Je fais partie de ceux-là. J'ai fait partie de ceux-là pendant des années. Moi, à l'époque, je faisais partie d'une maman qui ne voulait pas de jeux comme Call of Duty à la maison, etc. Ça a bien changé. Je pense qu'il faut qu'on reconnaisse aussi qu'on a ce biais de perception en fonction des croyances qu'on a déjà à la base. Et c'est clair que si on a l'impression que ce n'est pas forcément terrible parce qu'on n'est pas, fan de ce type de jeu... Dès qu'on a un enfant dans la classe qui va se comporter d'une manière un peu différente de ce qu'on attend, on va dire « Ah, ça va être à cause des jeux, ça me conforte moi dans ma croyance de ce que je pense des jeux. » Et ça reste aussi une observation parmi beaucoup. Et finalement, c'est que quand on a ce type d'études comme Ben a fait, des méta-analyses, où vraiment là, on a une vue qui commence à être un peu plus claire. Parce que des fois, vous pouvez même avoir une étude qui observe un phénomène, mais qui finalement... Si on n'arrive jamais à la répliquer, donc on se rend compte que cette étude a observé ce phénomène, mais finalement, ce n'est pas vraiment ça qui existait. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on prenne un peu du recul par rapport à ça.
Le cas le plus flagrant, c'est les shootings. À chaque fois qu'il y a un shooting aux États-Unis,
oui.
La personne joue aux jeux vidéo d'action, comme 80% de la population, et on va dire « Ah, tiens, il jouait au jeu et il l'a tué, donc... Voilà. » Parenthèse.
Qu'est-ce que vous savez des effets de l'exposition aux écrans, aux jeux vidéo chez les petits? Parce que moi, je me rappelle, chez la pédiatre, avant 3 ans, c'est X temps de trucs, puis je vois aussi ces images, alors ça c'est personnel, hein, mais je vais au restaurant, il y avait ce landau avec un enfant, puis ils avaient attaché il y avait un arceau comme ça, avec la tablette, et le gamin était comme ça. Et d'un côté, moi, ça me traumatise un petit peu, j'ai pas grandi avec un écran en face de moi tout le temps, donc je sais pas où est le... Ce que vous savez...
Vous mettez le doigt sur deux choses. Le fait qu'on n'a pas grandi avec... En fait, ce qui nous fait peur, c'est parce qu'on n'a pas grandi avec et on a nos préjugés sur les enfants, ça ne sert à rien, etc. Par rapport aux écrans, encore une fois, vous mettez le doigt sur un point très critique, c'est que l'âge est important. C'est-à-dire que sur les premières années, on développe les compétences sensorimotrices, langage, etc. Et ces compétences, elles dépendent énormément des interactions sociales. Quand vous avez un écran entre vous et votre enfant, et ce n'est pas forcément l'écran de l'enfant, ça peut être l'écran du parent pendant les repas. Et il y a une étude française qui est sortie il y a quelques temps sur une cohorte qui est suivie depuis la naissance. Et ils ont montré que le fait de regarder... En fait, ce n'était pas le temps d'écran, c'était l'écran pendant les repas. Donc s'il y avait les écrans, et à l'époque, c'était en 2003, je crois, quand ils ont commencé à collecter les données avec la télé, il n'y avait pas encore les smartphones, etc. Imaginez aujourd'hui, avec tous les parents qui sont sur les téléphones. Donc en fait, on est souvent en train de dire, les enfants, c'est pas bien, vous regardez les télé, mais en fait, on est en train de donner des mauvais exemples. Et c'est très important de tenir compte aussi de nos utilisations et de comment l'écran interfère, en quoi l'écran interfère avec des choses importantes au développement. L'écran, le soir... La lumière bleue, ça perturbe le sommeil est important pour l'apprentissage. Les écrans pendant les repas ou pendant les interactions sociales, ça perturbe tout ce qui est imitation et puis développement des compétences non langagières. C'est que des choses qui sont fondamentales. Et donc, pour les premières années, le plus simple, c'est des restrictions, ça a été de dire pas d'écran avant 2 ans. Alors, il y a toujours une petite nuance, si les écrans sont éducatifs, donc il y a des programmes éducatifs qui ont été testés aux États-Unis, qui ont montré des effets bénéfiques sur le langage, etc. Mais dans ces programmes, il y a plus d'interactions sociales. Est-ce que c'est le... Voilà. C'est toujours problématique. Mais en tout cas, le point important, c'est que pour réfléchir aux effets des écrans et aux restrictions éventuelles, il faut tenir compte de l'âge et de ce avec quoi ça peut interférer.
On est sorti de l'effet des jeux, et là, on arrive vraiment dans l'effet des écrans. Hein. Et on sait... c'est juste pour la... Parce que souvent, les gens, ils switchent de l'un à l'autre, mais c'est bien important de se rendre compte qu'il y a ce switch-là qui est fait. Et ça, effectivement, il y a des études qui montrent que ça peut être problématique. Alors, il y a ces âges 3, 6, 9, 12 qui avaient été émis par Stéphane ou Serge Tisseron, je ne sais plus son prénom. Donc, pas d'écran, quel qu'il soit, avant 3 ans ou 2 ans... pas de console de jeu avant 6 ans. On peut commencer à aller sur Internet accompagné par un parent à partir de 9 ans et puis de manière autonome à partir de 12 ans. Ce qui est important toujours, c'est voilà, que le parent doit garder un œil quand même. Et le truc qu'il y a le plus important, c'est communiquer, comprendre ce que son enfant fait, voir s'il a compris ce qu'il voit, avoir quand même un regard là-dessus. Et puis, ben, bien sûr, les règles, comme Ben a dit, pas le matin, pas pendant les repas, pas dans la chambre de l'enfant et pas avant de se coucher. Mais là, on parle vraiment de l'utilisation des écrans. Et effectivement, comme tu l'as souligné, on dit toujours, voilà, on voit ces enfants qui sont devant un écran au restaurant, etc. Mais il y a aussi beaucoup les parents. Et vous voyez, si vous prenez le bus, le tram, n'importe quoi, vous voyez régulièrement l'enfant qui est dans sa poussette et le parent à côté qui est sur son téléphone. Donc, il y a aussi ce phénomène-là.
Montre des mauvais exemples.
C'est pas vraiment une question, mais c'était juste pour justement par rapport à ça sur l'exposition aux écrans. Il y a une conférence au 1er mars à l'université de Genève.
Voilà.
En fait, oui, on en parlait à la fin.
Serge Tisse. Ok, alors je me.
Ouais. Il y a en fait il y a toute une série de conférences dans le cadre des séminaires Jean Piaget. Et donc c'est disponible sur YouTube après aussi. Voilà. C'est tous les mercredis. Bah d'ailleurs c'est à partir de 18h.
Il y a déjà la rediffusion pour la conférence du 1er mars.
L'exposition
aux écrans et impact sur le neurodéveloppement avec Serge Tisseron et deux autres intervenants qui se focalisent spécifiquement sur cette question et donc qui est extrêmement intéressante à regarder.
Ouais, et puis,
je crois que c'est mis assez vite en ligne parce que les trois premières sont déjà en ligne.
Oui. Il y a aussi Édouard Genta. Enfin, il y a toute une équipe qui travaille sur ces questions-là aussi à l'université. Ouais. Donc c'est en fait, là, on voit que ça date de 2008. Depuis, il y a tous les gouvernements qui ont essayé de faire ça, l'Association de pédiatrie américaine, d'Australie. Ils arrivent à peu près tous à des choses relativement similaires. Mais en fait, quand on voit ça, c'est qu'on sait que maintenant, l'âge d'obtention du premier smartphone est autour de 9-10 ans. Donc, smartphone, Internet, jeux vidéo, médias sociaux, ça donne accès à tout. C'est aussi
et juste pour clarifier peut-être le pourquoi pas d'écran avant 3 ans, parce que le cerveau est encore en plein développement. Alors, il est en plein développement jusqu'à 20 ans, voire même 25, selon ce qu'on regarde. Mais il y a cette période vraiment très spécifique, juste après la naissance, où le cerveau va créer des connexions ou se former en fonction des expériences qu'il vit depuis l'extérieur. Et le cerveau est très, très plastique à ça. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu cette idée de dire... Ben, tout petit, non, parce que les écrans sont des stimulus qui, on parlait de l'attention exogène, sont des stimulus très, très saillants et qui vont capturer l'attention de l'enfant. Et il n'y a pas d'interaction. Et du coup, l'enfant ne va pas pouvoir développer son système attentionnel sur des bases plus solides s'il est constamment devant un écran. Là, on parle vraiment de personnes qui sont constamment devant un écran. Moi, j'ai eu le cas d'un élève à l'époque, 8 ans, qui se levait le matin, il avait l'écran, il petit déjeunait devant l'écran, il allait à l'école, il revenait, il mangeait devant l'écran, il rentrait, il était devant l'écran. Et tout le week-end, il le passait devant l'écran. Et le soir, il ne se couchait pas avant 10h, 10h30, parce qu'il regardait encore la télé avec ses parents. Donc ça, c'était vraiment un cas très extrême. Et là, effectivement, on voit les effets de ça. Mais la plupart du temps, ils font plein d'autres choses aussi. Ils regardent des écrans, mais ils font aussi plein d'autres choses. Et c'est de trouver un juste mélange de tout. On ne peut pas aller contre. Les écrans sont là, ils grandissent avec. Les tout-petits, ils savent déjà comment swiper sur le téléphone pour trouver les photos qu'ils veulent. Enfin, c'est assez impressionnant. Ça développe aussi des capacités
Et le fait que ce soit en 2D aussi, il y a eu pas mal d'études qui ont montré que même quand on met le même matériel, c'est-à-dire qu'on filme une enseignante qui fait une démonstration et on met l'enfant face à l'enseignante ou face à une vidéo de l'enseignante, l'impact n'est pas du tout le même. Il y a besoin de la 3D, il y a besoin de l'interaction, il y a besoin du réel. L'écran, on n'a pas encore tous les éléments sur le pourquoi, mais l'écran est délétère en termes d'apprentissage, surtout sur les très jeunes. Donc c'est, d'une manière générale, c'est recommandé de limiter autant que possible dans les premières années.
Il y a une question d'ailleurs aussi qui a été posée en amont sur les risques de syndrome d'Asperger pour des enfants qui auraient été très tôt confrontés aux écrans. Est-ce que la recherche dit quelque chose là-dessus ou...
Oui, alors les recherches montrent un peu des choses un peu différentes. Il n'y a pas énormément de recherches encore parce que ce n'est pas très éthique de prendre un enfant et puis de le mettre devant des écrans pour voir si c'est vraiment ça, voilà, comme on expliquait avant. Par contre, dans des études, y a des études qui montrent qu'en fait, que le pourcentage dans les enfants qui ont un syndrome de type autistique, qui sont beaucoup devant des écrans, n'est pas plus important que dans une population neurotypique. Y a une étude qui a montré un lien entre le fait de regarder beaucoup, mais ça, c'est une étude qui a été faite en Arabie Saoudite, je crois, j'ai vu. Mais c'est pas très clair. La chose qu'on sait, parce que c'est vrai qu'il y a eu ce documentaire il y a quelques années sur quelques... Mais de nouveau, on est sur quelques cas qui sont vraiment hyper extrêmes d'enfants qui étaient devant l'écran depuis la naissance et à 2-3 ans, le langage ne s'était pas développé. C'était vraiment... Mais ce qui était montré aussi dans ce documentaire, c'est que dès qu'on arrêtait et qu'on remettait l'enfant dans des expériences, ces syndromes disparaissaient. Donc, moi, je pense que faire le lien, en dire, c'est les écrans qui vont... Alors, voilà. Le trouble autistique, c'est un trouble développemental. C'est quand même... Il y a une signature neuronale. C'est quand même quelque chose de spécifique. De là à dire que c'est les écrans qui provoquent ça, ce que certains font, c'est un peu fort. Enfin, je ne suis pas sûre que...
Question dans le même ordre d'idée. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites entre une surexposition aux écrans, petit, avant l'âge de 3 ans, et après des troubles du langage ou un retard dans le début du langage ?
Alors, je ne suis pas...
Longitudinale, grande... oui, justement. Ouais, cette étude sur la cohorte française qui a montré que ce n'est pas l'exposition et ce n'est pas le temps d'exposition. Encore une fois, c'était...
C'est le manque de...
C'était pendant les repas. Donc, en fait, c'est quand ça interférait avec les interactions et avec... Si on ne parle pas, le repas est un moment privilégié pour discuter avec ses enfants et pour interagir. Et donc, si on coupe ça par des écrans, c'est problématique.
Et ça, vous auriez un document ou...
Ah oui, c'est les études. Oh, on peut transmettre. Ça a été pas mal publié. En fait, c'est l'étude sur la cohorte ELF. Early Life Family Events, quelque chose comme ça. On peut transmettre, on peut diffuser des... Mais il y a 2-3 papiers qui sont sortis ces 2 dernières années sur ces cohortes-là qui ont commencé à être collectés en 2003, je crois. Donc on commence à avoir des... Mais vous voyez, on est sur la télé, on est sur des données qui ont plus de 20 ans, donc ça prend du temps à publier. Et en fait, toutes ces questions-là sont très complexes parce que c'est des effets qui sont multifactoriels. Et pour rebondir sur l'autisme, sur ces problématiques sociales, en fait... Les enfants qui ont des troubles d'interaction sociale vont s'orienter plus facilement vers les écrans. Donc l'écran va déjà attirer plus. Et donc en fait, dès le début, on a un cercle vicieux qui fait qu'ils sont plus attirés par les écrans parce que c'est un échappatoire aux interactions sociales. Et donc, bah, déterminer la causalité par rapport à ça, c'est compliqué. Et pour faire un contexte plus actuel, on a des données récoltées très, très, très récemment avec des collègues aux États-Unis où on s'est intéressé, on a demandé aux adolescents comment ils utilisaient les assistants vocaux. Et en fait, on se rend compte que maintenant qu'on peut parler à un assistant vocal ou à un chat GPT ou un truc, bah, pour poser des questions, en fait, on se rend compte que sur certaines questions, notamment personnelles, les jeunes sont plus à l'aise de demander à des avis extérieurs sur leurs compétences, sur ces choses-là. Et en fait, on est en train de s'inquiéter sur le fait qu'on va développer des déficits sociaux d'interaction à cause de ces technologies. Alors, on n'est plus sur des écrans. Hein. Vous voyez, j'ai shifté encore sur une autre dimension, mais on est sur des assistants vocaux où, en fait, on se retrouve... Et alors, si vous avez des traits autistiques et que vous avez un peu plus de difficultés à avoir des interactions sociales, qu'on vous propose un outil qui vous permet de répondre à vos questions sans interaction sociale, est-ce que c'est l'outil qui cause ou est-ce que l'outil permet quelque chose? Et en fait, la conclusion qu'on pourrait apporter à tout ça, c'est qu'à partir du moment où ces utilisations sont accompagnées, en fait, les effets sont beaucoup plus sereins, beaucoup plus sains et... Voilà. Donc, en fait, on est plus dans une époque où il ne faut plus diaboliser les écrans et les technologies. Il faut essayer de les comprendre et d'accompagner parce qu'elles vont être là. Elles vont durer. Il va falloir les intégrer. Et l'objectif, c'est qu'elles nous fassent le moins de mal possible et surtout aux prochaines générations. Donc, c'est des questions qui sont... Probablement que les réponses vont changer dans 10 ans parce que les technologies vont changer et puis qu'on aura plus de connaissances. Mais en tout cas, c'est important d'être sensibilisé et de s'interroger par rapport à ça et de ne pas de foncer dans les biais et les préjugés qu'on a.
Mais en même temps, juste pour donner un petit témoignage, moi, je reçois toutes les demandes d'évaluation en langue d'origine. C'est un projet sur lequel je m'occupe pour l'école primaire. Et en 1P, de plus en plus, je reçois 200 par année. C'est des enfants qui, à l'entrée dans l'école, ne parlent pas leur langue d'origine, ne parlent pas le français non plus, ils ont très peu de vocabulaire. Et en fait, qu'est-ce qu'ils parlent? L'anglais. Et c'est magnifique parce qu'ils parlent anglais. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont appris tout seul sur YouTube. Mais c'est quand même un état des faits à Genève ces dernières années.
Alors nous, on avait ça, mais avec les chansons. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, ceux qui apprenaient le mieux l'anglais, c'est ceux qui écoutaient les chansons et qui voulaient absolument...
Donc, c'est
vrai. Les problèmes sont... quand la presse est sortie, quand la radio est sortie, tout le monde disait « Ouh là là, les gens ne vont plus lire ». C'est compliqué. C'est à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on voit en fait... Le plus gros exemple, en fait, c'est le rapport PISA, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui dit depuis 2012, les notes en maths diminuent. Tiens, 2012, c'est l'apparition des réseaux sociaux, donc cause à effet. C'est encore pareil. C'est difficile de ne pas tomber dans ces travers-là, mais effectivement, les écrans sont de plus en plus présents. On a des compétences qui changent, on a une attention qui change parce que la société change et qu'on est de plus en plus stimulé. Notre cerveau s'adapte. Tout ce que notre cerveau, tout ce qu'il a été créé pour faire, c'est s'adapter à son environnement et prédire. Donc si dans votre environnement, il y a de plus en plus de technologies, qu'on vous facilite les choses, il ne va pas dépenser des efforts pour faire des choses. L'anglais, maintenant, vous n'avez même plus besoin de l'apprendre, il y a des traducteurs. Peut-être que dans quelques années, ça va rediminuer, on ne sait pas.
Est-ce que vous avez identifié ou trouvé des moyens de mesurer le défaut éducatif? L'idée que, ça, comme c'était dit tout à l'heure, peut-être les parents s'occupent de moins en moins de leurs enfants et se servent des écrans comme d'un moyen de babysitting. Pour enlever la causalité faite par tout le monde entre l'écran est responsable d'eux, plutôt que, est-ce qu'il y a une croissance, une dégradation du niveau éducatif, pédagogique donné, même pour l'apprentissage des langues, une diminution de la quantité de mots prononcés par les parents envers leurs enfants ou des choses comme ça?
Alors c'est une excellente question parce que c'est exactement sur ça qu'on essaye de travailler en fait au niveau international, c'est-à-dire de créer des méthodes qui soient consensuelles. Et en fait, pour mesurer ça, c'est très compliqué. Donc jusqu'à maintenant, la plupart des études, quand on mesure quelque chose, on demande aux gens combien de temps passez-vous par jour sur un écran, qu'est-ce que vous faites à la maison, etc. Donc en fait, on est en train d'essayer d'obtenir des mesures plus fines et plus objectives. Donc de par les technologies, de par time use diaries, on remplit des calendriers pour dire j'ai fait ça pendant tant de temps, etc. Et aussi au moyen d'entretien, d'interview, etc. Donc il y a des méthodes, enfin des groupes internationaux qui se mettent en place pour développer ces méthodes-là, pour se mettre d'accord sur comment mesurer cet aspect du comportement, du contexte, de l'environnement, etc. On y est loin d'y arriver. Et en plus, ces groupes-là vont... les méthodes vont être dépendantes des âges. Parce que pour mesurer l'exposition aux écrans des tout-petits-enfants, ça va plutôt passer par les parents, et puis ça ne va pas être les mêmes écrans, etc. Donc c'est très, très, très compliqué. Et c'est vraiment tout le challenge de la recherche, c'est d'arriver à savoir comment mesurer quelque chose aujourd'hui et mesurer ça pendant 20 ans. Mais le problème, c'est que dans 20 ans, probablement, il y aura des meilleures façons de le mesurer, que l'environnement aura changé, du coup, ce sera plus approprié. Donc en fait, les études, il y a eu des ambitions de chercheurs qui ont voulu lancer des études sur 100 ans. C'est super ambitieux. Le problème, c'est que 15 ans après, on a des mesures qui sont obsolètes parce que la finesse et la précision de la mesure est complètement dépassée. Et du coup, quel est l'intérêt de ce... Donc, c'est très compliqué. Les études longitudinales sur du long terme comme ça, où on suit et où on a des mesures objectives, c'est très compliqué. Ce serait idéal, mais...
Si je résume, vous dites en gros... Il n'y a pas d'effet causal démontré entre les écrans et des aspects négatifs. En fait, il n'y a pas tellement d'effets négatifs démontrés de manière causale. C'est plutôt les manques que ça procure. Parce qu'à la place de faire de l'écran, pourrait passer plus de temps avec ses parents, passer plus de temps à faire du sport, etc.
Alors, c'est des manques ou les raisons qui nous poussent vers les écrans. En fait, pour prendre une image que j'aime beaucoup, les utilisations problématiques des écrans, finalement, c'est une expression des symptômes dans une société hyper connectée. Mmh. Et donc, en fait, quand vous n'êtes pas bien maintenant, vous allez exprimer votre mal-être avec un écran. Et donc, l'addiction aux jeux vidéo, pour reprendre les termes qui ont été utilisés, ou aux médias, c'est une façon d'exprimer ces symptômes dans la société. Donc, pour nous, ce n'est pas les écrans qui sont responsables, c'est les écrans qui sont le moyen par lequel vont s'exprimer les symptômes. Donc, on n'a pas dit qu'ils étaient pas, qu'il n'y avait pas de lien de cause à effet, mais c'est des personnes vulnérables, c'est... Voilà. C'est pour nous, l'écran, il permet quelque chose qui se serait exprimé différemment sans l'écran. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais c'est une nuance qui est importante pour nous. Mm-hmm. Ouais, c'est plus... ils ne sont pas causalement responsables, mais s'ils n'étaient pas là, ils se seraient exprimés différemment. Ils ont quand même modifié quelque chose.
Presque une causalité dans l'autre sens, en fait.
Oui, après, si on peut reprendre dans l'idée de... Parce que ça a été testé de façon causale avec les jeux vidéo d'action, c'est que si on revient sur les effets bénéfiques, on a un effet bénéfique jusqu'à un certain nombre d'heures et après, ça se transforme en effet plutôt négatif. Donc il y a aussi, je pense que le mot aussi, c'est d'avoir une utilisation appropriée et voilà, et de pas... c'est clair que si on fait de l'écran 8 heures par jour, 7 jours par semaine, il va forcément y avoir des effets négatifs parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on ne fait pas à côté. Mais c'est plus parce qu'on ne fait pas ces autres choses... et que ça nous empêche d'avoir toutes ces interactions. Je pense qu'il y a aussi un lien, si on regarde, parce que typiquement, c'est souvent, ces liens sont retrouvés dans les milieux socio-économiques faibles. C'est clair que si vous êtes deux parents à devoir travailler 8 heures par jour, vous êtes crevés, ce n'est pas des boulots non plus super motivants en général. Vous rentrez le soir, vous avez vos deux gamins qui font n'importe quoi, c'est plus facile. Et je ne suis pas persuadée que moi, dans cette situation-là, je ne ferais pas aussi ça. D'utiliser quelque chose qu'on a à disposition pour avoir juste la paix pendant qu'on fait à manger et qu'il soit tranquille. Mais je pense qu'il y a aussi un phénomène de comment les gens sont dans la société. On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent des situations compliquées. Paradoxalement, la technologie coûte cher. Et très étonnamment, dans ces gens souvent qui viennent de milieux socio-économiques plutôt défavorisés, arrivent à mettre de l'argent parce qu'ils veulent que leurs enfants soient au même niveau que les autres et ils arrivent à mettre des sommes astronomiques dans ces technologies. Ce qui fait que, je crois que c'est complexe de savoir quoi est la cause de quoi et c'est vraiment tout un écosystème qui provoque ce genre d'effet.
Voilà, comme il nous reste 20 minutes, je propose qu'on aborde les points suivants qui, de toute façon, vont reprendre. Ils sont directement en lien. L'impact des différents supports, est-ce que ça change quelque chose d'être sur un téléphone, d'être avec un casque de réalité virtuelle, d'être avec un ordinateur ?
Alors, en termes de support, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect contrôleur et il y a l'aspect écran. Mm-hmm. Pour commencer par l'aspect écran, en fait, les premières études qu'on a faites, c'était sur des joueurs, des non-joueurs, dans les années 2000. c'était pas non plus, le jeu vidéo n'était pas aussi populaire qu'il l'était aujourd'hui. Donc on avait des gens qui avaient des consoles de jeux ou des ordinateurs et donc un écran relativement grand. Les smartphones, les tablettes n'existaient pas. Donc on a vu des effets qui étaient liés au fait que des gens jouaient sur un écran et où il se passait des choses et finalement vous êtes presque obligé de bouger les yeux et, ou la tête pour voir toutes ces choses-là. Et donc comme l'idée des jeux d'action, enfin la mécanique des jeux d'action qui est la plus importante, c'est justement le fait de changer de type d'attention focale distribuée dans le temps, etc. Quand on a commencé à avoir des études avec des smartphones et des tablettes, on a voulu regarder ça dans la méta-analyse justement, et en fait on s'est rendu compte que les quelques études qui ont utilisé des écrans plus petits n'ont pas eu des effets aussi forts. Et donc on pense, et encore une fois ça n'a pas été testé suffisamment, de façon suffisamment robuste, mais on pense que la taille de l'écran a un impact sur le fait que bah, quand vous avez un écran tout petit, bah, vous voyez tout, vous n'avez pas besoin finalement de filtrer l'information ou de choisir où vous allez faire un mouvement des yeux pour aller voir l'information. Donc, la taille de l'écran peut avoir un impact. Ensuite, au niveau des contrôleurs, donc on a beaucoup étudié des gens qui jouaient en souris clavier, et en fait, on s'est rendu compte, quand on a voulu commencer avec les manettes, que bah, c'est très, très différent, en fait. La représentation au niveau du... Quand vous êtes sur une souris et un clavier, le mouvement que vous faites se retranscrit à l'écran. Alors que sur une manette, il n'y a pas de mouvement, et en fait, votre cerveau, du coup, ne va pas retranscrire la commande motrice, enfin le fait de faire bouger un personnage à l'écran de la même façon quand vous faites ça que quand vous déplacez un objet. Et en fait, plus récemment, avec l'avènement des jeux sur mobile et sur les écrans tactiles, il y a une équipe à Zurich qui travaille sur ça depuis des années, en fait, qui s'est intéressée au... Donc, au niveau du cerveau, on a une représentation de tout notre corps, que ce soit le moteur et le sensoriel. Il y a d'ailleurs des sculptures qui sont très connues, qui sont les homunculi, qui montrent des bonhommes avec des très grosses lèvres et des très grosses mains, qui représentent en fait comment notre corps est représenté au niveau du cerveau. Notre cerveau, la main est très bien représentée parce qu'on est très moteur, etc. Le coude, beaucoup moins. On a beaucoup de sensibilité et de motricité au niveau du visage. Et en fait, ce que ces chercheurs se sont rendus compte, c'est que la région en fait, qui code pour ses deux doigts, eh ben, elle prend beaucoup plus de place aujourd'hui qu'il y a 10 ans.
Le pouce et l'index, je précise pour ceux qui écoutent.
Le pouce et l'index, oui. Le fait de zoomer sur un écran et de toucher. Ouais. En fait, on est en train de changer la structure et la connectivité de notre cerveau parce que bah, notre cerveau, il se développe pour être efficace. Et si vous utilisez quelque chose beaucoup, bah, le cerveau va faire en sorte que ça marche très bien. Et c'est pour ça que quand on expose des enfants à des écrans au début qu'ils n'ont pas la vision 3D, on crée des déficits et du coup, il faut compenser ces choses-là. Et là, en exposant les gens à des nouvelles activités et des nouveaux mouvements, ben, on modifie aussi le cerveau. Et cet impact-là, on le verra probablement que dans un temps écologique. Donc probablement une dizaine, vingtaine, centaine d'années sur une prochaine génération, prochaine...
À savoir que quand vous apprenez à jouer au piano ou au violon, vous avez aussi ça qui se passe dans votre cerveau. Hein. Donc les airs qui vont faire, voilà, pour la main gauche, si vous jouez au violon... va être beaucoup plus développé que l'air qui va gérer la main droite, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est juste horrible et dû au fait qu'on utilise les smartphones. C'est n'importe quel geste que vous allez répéter va provoquer une plasticité cérébrale et va augmenter le nombre de neurones qui répondent à ça.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire ou non ?
Oh, pas du tout.
Rien à voir.
Non, la mémoire musculaire, c'est l'idée que... Alors, c'est aussi controversé. C'est l'idée que, sans passer par le cerveau, en fait, vos muscles... vont avoir, c'est du coup c'est très périphérique, vos muscles vont avoir une efficacité beaucoup plus importante entre, c'est la plaque neuromusculaire, entre les connexions qui sont présentes et quelles fibres musculaires doivent se contracter. Ça c'est encore différent, c'est plus périphérique. Là on est vraiment au niveau cérébral alors que c'est plutôt au niveau moelle épinière et au niveau vraiment local, fuseau neuromusculaire.
Là, vous avez parlé donc de l'aspect contrôleur, oui. L'aspect écran, donc taille de l'écran. Est-ce que, quand on compare les différents supports, les gens comparent aussi le type de jeu auquel on joue ? Parce qu'il y a certains jeux qui sont très peu joués sur certains supports, même qui sont infaisables, ou je ne sais pas si vous avez des détails à ce sujet.
Alors nous, on a fait cette comparaison sur des jeux d'action, justement parce que notre idée, c'était que on avait une hypothèse sur qu'est-ce qui crée l'effet du jeu d'action, c'est cette alternance régulière entre deux types d'attention focalisée et qui nécessite un écran suffisamment grand. Donc on a voulu le tester par rapport aux études, quelques études qui sortaient où En fait, ils donnaient des tablettes à des gens ou des smartphones et ils leur faisaient jouer pendant 20-30 heures chez eux à des jeux vidéo. Et ensuite, quand ils revenaient, il n'y avait pas d'effet. Et donc, on s'est dit, bon, on va regarder. Est-ce que c'est parce que c'est chez eux? Donc, en faisant la méta-analyse, on a aussi testé, est-ce que la taille de l'écran a un impact? Et oui, ça a un impact. Et du coup, dans la deuxième méta-analyse, on a dit, on exclut toutes les études sur des petits téléphones parce qu'en fait, ça va biaiser tous nos résultats parce qu'on sait que ça ne marchera pas. Et donc, on veut voir si quand on le fait correctement sur un bon écran, etc. Et donc, pour continuer sur le support, en fait, on est en train de voir l'avènement de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On est encore dans un autre niveau de contrôle où cette fois, c'est votre corps. Alors, peut-être qu'on va repartir sur des choses où le codage va être complètement différent, mais là, il n'y a pas assez de recul pour étudier ça. Le jeu vidéo en réalité virtuelle, ce n'est pas assez, étudié pour qu'on puisse savoir si ça va avoir un impact sur les effets qu'on observe, etc.
À savoir qu'en réalité virtuelle, vous ne pouvez pas rester 8 heures dans un casque.
Oui.
C'est juste pas possible. Ça crée des conflits avec le cerveau. Et y a des gens qui ne supportent pas depuis la première minute. Hein. Mais au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc on ne peut pas se retrouver à jouer 8 heures dans un casque comme on peut être 8 heures sur un écran, par exemple.
C'est peut-être la solution, en fait, d'avoir plus que des casques de réalité virtuelle pour limiter le temps d'écran. En fait, peut-être ça y est, on a résolu le problème.
Est-ce que c'est le temps d'écran, c'est ce qui compte finalement avec
oui,
les assistants vocaux,
ouais.
Je ne sais pas, parce qu'il y a le casque d'Apple qui est sorti il n'y a pas longtemps, oui. qui est un casque de réalité augmentée. Alors, c'est comme si on voyait la réalité alors que c'est filmé, etc. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui viennent d'arriver. Mm. On nous a parlé du métaverse depuis quelques années. Ça questionne beaucoup, mais on n'a pas encore on a pas assez recul, de recul pour ouais. pouvoir tester tout ça. Et pour pouvoir... Mais par contre, c'est vrai que ça soulève énormément de questions.
À savoir que par exemple, les lunettes de réalité augmentée sont utilisées dans certains métiers et personne ne se pose la question de savoir si c'est problématique ou pas. Donc, je sais que par exemple, quand ils ont dû rénover le stade de Roland-Garros, il fallait qu'ils le fassent super rapidement. Ils avaient réussi à implémenter tous les plans des conduites dans les lunettes. Et du coup, quand ils ont commencé à voir sur place, dans leurs lunettes, ils voyaient exactement ce qu'on n'a pas normalement. D'habitude, on est obligé de casser. On sait que c'est plus ou moins par là, mais on ne sait pas exactement où. Et ils ont réussi à réduire le temps de rénovation du stade de Roland-Garros grâce aux lunettes de réalité augmentée. Donc ça, c'est quelque chose... Étonnamment, personne ne se pose la question de savoir est-ce que ça a un effet négatif. Parce que l'effet positif, on le voit tout de suite. Mais voilà.
Là, il nous reste une dizaine de minutes pour... Donc pour aborder la gestion d'utilisation, je crois qu'on en a parlé un peu
voilà,
en parlant des effets négatifs.
C'était pas linéaire forcément. Voilà,
oui, bah comme la question est apparue.
Exactement. Je ne sais pas, ceci dit, si vous voulez peut-être prendre un temps, alors peut-être pas de questions, mais juste un temps pour synthétiser des conseils que vous donnez aux enseignants et aux parents, parce que je crois qu'on est plusieurs à être là sous une double casquette. Est-ce qu'il y a quelques conseils concrets que vous pouvez nous donner sur la gestion du temps d'écran, donc écran en général, on sait bien que ce n'est pas forcément vos spécialités le tout, mais et des adolescents.
Alors pour les adolescents, je pense que par rapport à la... Alors je vais parler de plus, ça ne va plus être le côté chercheur, mais plus le côté chercheur-parent. En fait, moi je suis arrivé avec un préjugé par rapport aux jeux vidéo, j'ai arrêté de jouer il y a très longtemps, j'ai fait des études, etc. Et donc... je suis arrivé dans un laboratoire qui étudiait le jeu vidéo et j'ai vu mon fils qui passait beaucoup de temps sur les jeux vidéo. Et mon premier réflexe, ça a été de m'asseoir et d'essayer de comprendre justement par rapport à ce qu'on étudiait. Et en fait, moi, je suis arrivé avec mon préjugé en me disant, il joue à Fortnite, qui n'est pas du tout adapté à son âge. Il y a d'autres parents, parce qu'on a des discussions avec les autres parents, qui interdisaient ça à leurs enfants. Donc, c'était vraiment une grosse question. Il y a de la violence, il tire sur des gens, etc. Et en fait, quand j'en ai discuté avec mon fils, en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était le côté challenge, c'était de survivre et d'être le dernier, etc. La violence ne l'attirait pas en soi, il aurait pu jouer un tout autre jeu, mais ce qui l'intéressait, c'était le côté compétitif. Et donc c'est là où j'ai commencé à comprendre que finalement, c'était pas l'aspect que tous les parents mettaient en avant n'était pas du tout important pour lui dans son jeu, il n'avait pas du tout soulevé ça, et donc ça m'a permis de plus être attentif à la façon dont il utilisait les jeux et donc aussi de connaître sa façon de jouer avec lui, etc. Ça m'a permis de me rendre compte que les parties, ils sont 5, il y a 5 autres joueurs, et donc quand on lui dit « à table !» et qu'il doit descendre et s'arrêter tout de suite, il se met en rogne avec 4 autres personnes, ça crée des conflits, etc. Et donc c'était pas la bonne stratégie. Et donc arriver à tenir compte de comment ils utilisent les technologies, c'est-à-dire pourquoi tu le fais, combien de temps tu vas le faire. Et donc maintenant, on est plus dans ce fonctionnement-là et on a beaucoup moins de conflits, etc. Et pour avoir passé un certain temps avec des collègues qui ont mis en place une clinique qui traite des adolescents et des familles, en fait, parce qu'ils ne traitent pas les adolescents, ils prennent la famille entière, parce que c'est un problème de famille, qui ont des utilisations problématiques. En fait, souvent, les parents arrivent en disant « Oui, il a des mauvais résultats scolaires depuis qu'il est sur les écrans. Les enfants ne veulent pas venir aux premiers entretiens, etc. » Et en fait, ce qu'on se rend compte quand on creuse et quand on arrive à faire venir les adolescents, c'est qu'en fait, ils n'arrivaient pas bien à l'école. Ils étaient plus ou moins en sentiment d'échec. Et quand ils ont commencé à jouer aux jeux vidéo, ils étaient super bons, meilleurs que leurs copains. Et donc, en fait, ils ont une motivation à continuer. Et en fait, ce que les parents voient comme relation est finalement pas la bonne. Et donc, je pense que c'est important d'écouter. On a un décalage générationnel. Le smartphone est arrivé au milieu de ma vie quasiment, alors qu'eux, il est là, Internet est là. Et donc, on n'a pas eu les mêmes expériences, on n'a pas les mêmes... les mêmes vécus, et je pense que ça, c'est important à prendre en compte pour interpréter et pour aborder la relation. Ça, c'est mon expérience très personnelle.
C'est vrai que moi, j'avais souvent ce retour des enfants ADHD qui, justement, étaient très attirés par ce type de jeu, des jeux vidéo d'action, et en fait, quand on discutait avec eux, la réponse qui revenait systématiquement, globalement, c'était... Mais en fait, à l'école, je gère rien, j'arrive pas. Et là, quand je joue, j'ai l'impression que je contrôle au moins un peu quelque chose. Je contrôle pas ce qui se passe dans ma tête, je contrôle pas ce qui se passe à l'école. Et tout à coup, j'ai l'impression que j'arrive à contrôler quelque chose et que voilà, c'est aussi bon pour leur image à eux. Alors, c'est vrai que le message, c'était plutôt de dire laissez-les jouer, mais pas pendant 3 heures, en fonction de l'âge, en fonction de l'organisation de la famille. Je pense qu'il faut avoir quand même cette compréhension-là. On ne peut pas faire contre, ces technologies sont là. Nos enfants grandissent avec, ça évolue à une vitesse phénoménale, donc je pense que c'est plus intelligent de se dire apprenons à les utiliser, apprenons à prendre aussi le point de vue de l'enfant. Souvent l'adolescence, c'est déjà une période où on est très, voilà, ils savent très bien mettre le doigt là où ça fait mal, ils testent les limites, etc. Donc plutôt que d'aller contre, de manière générale, pas forcément que pour les écrans, mon point de vue à moi, c'est que c'est toujours plus intelligent d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui fait que cet adolescent a ce comportement-là, il y a toujours une bonne raison. Et de voir après, c'est une négociation. OK, jusque-là, moi, je suis OK, je veux bien comprendre, mais ça, non. Et c'est des choses à négocier, à mettre en place, plutôt que d'être sans arrêt dans la réaction au moment où ça se passe. Voilà, du style, viens manger, non, tu viens pas, ouais, hein, et puis ça part. Hein. Donc, c'est pas quelque chose de réfléchi, et puis c'est voué au conflit, de toute manière. Après, si on revient plus spécifiquement à comment on arrive à induire un effet positif des jeux vidéo d'action, on sait qu'on doit avoir tant d'heures minimum, mais que ça doit être sur une pratique distribuée, que si vous voulez un effet d'apprentissage, c'est important qu'il y ait des heures de sommeil entre deux, parce que c'est là que le cerveau consolide les apprentissages. Donc c'est vrai qu'en règle générale, quand on fait des études, c'est pas plus que 45 minutes par jour. Et puis après, le prochain jour, vous refaites, grosso modo, c'est 45 minutes par jour, 5 jours par semaine, pendant, ça dépend les protocoles, entre 15h et 45h d'entraînement, pour qu'on puisse voir l'effet positif. Mais ça, c'est juste, voilà.
Je pense qu'on a plein d'ados qui peuvent avoir des effets très positifs, c'est bon. je pense qu'ils ont leurs 45 minutes par jour. Je laisse peut-être encore une question, deux questions.
Vous parliez tout à l'heure justement du fait que le temps d'écran, c'était plus forcément le facteur principal auquel vous vous intéressiez, qu'il y avait d'autres choses. Prenez votre exemple avec votre temps d'écran. Je me demandais si vous arriviez à identifier, vous ou la recherche actuelle, quel facteur amènerait le fait que nous, au quotidien, ce qu'on constate avec les élèves, c'est qu'en fait, ils sont... Moi, je trouve le mot addiction, alors j'ai bien compris pourquoi ce n'est pas utilisé, mais un phénomène impressionnant, c'est à quel point beaucoup d'élèves qui sont dans les jeux vidéo n'arrivent pas à en sortir, même quand ils sont ailleurs. J'entends à l'école, ils ne parlent plus que de ça, ils ne pensent plus qu'à ça. Et puis même quand on essaie de les en sortir, même quand on part dans un projet qui semble les intéresser, il y a toujours un moment donné où ils décrochent et ils repartent là-dedans. Et c'est là où c'est pour ça que je reparle d'addiction, parce que je trouve que c'est impressionnant comme ça reste tellement prégnant en eux, alors que justement, moi j'ai eu beau Par exemple, j'ai montré à des élèves un tout petit bout de reportage sur le e-sport et sur les gaming house en Corée pour leur montrer à quel point les plus performants mondialement dans les jeux qui les intéressaient, ben, en fait, ils sont astreints à une discipline absolument folle et qui n'a rien à voir avec ce qui se représente. Mais ça ne change rien. Donc, je me demandais si vous aviez un indicateur ou quelque chose sur qu'est-ce qui fait que ça reste autant présent, même quand ils ne sont pas devant leur écran depuis déjà des heures.
Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment des recherches là-dessus. Je ne me suis pas du tout documenté sur la question. Moi, encore une fois, ça va être un ressenti. Et puis, par rapport à ce que j'ai vu de l'évolution du jeu vidéo, c'est que au départ, le jeu vidéo, esthétiquement, ce n'était pas très beau. Maintenant, on est sur des jeux où le personnage, les chaussures, les armes, le décor, tout est important. Et en fait, c'est devenu vraiment une identité. Le jeu auquel vous jouez, le personnage que vous jouez, donc ce qu'ils appellent les skins que vous allez porter, etc. Et du coup, ça devient un peu comme les cartes Panini que les enfants échangeaient. Vraiment, je veux dire, on est sur un transfert de ses intérêts sur des choses qui sont digitales et qui nous inquiètent plus finalement que quand ils étaient fans d'une équipe de foot ou qu'ils étaient fans de... Enfin, voilà. Je pense que c'est tout à fait commun à l'adolescence de se focaliser sur quelque chose et d'avoir des intérêts plus importants sur certaines choses et puis qui sont alimentés par les copains. Et puis maintenant que le jeu est devenu si populaire, bah, en fait, on se retrouve, il y a des intérêts qui sont partagés avec d'autres personnes et du coup, bah, ça, si c'est pas cette personne, ce sera cette personne. Et du coup, ça crée d'autant plus de raison d'en parler. Donc, je pense qu'il y a ce côté popularité qui fait qu'on le voit plus et qu'on le ressent plus et que ça, et c'est effectivement aussi plus présent dans leur tête et plus focalisé sur le jeu vidéo que sur d'autres médias. Mais on n'a pas d'index particulier pour mesurer ça à l'heure actuelle. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui est, pour moi, passager. Parce qu'il y a une phase où ça va shifter sur d'autres intérêts. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans la phase de l'adolescence. Alors, je ne sais pas quels élèves vous avez, mais la phase de l'adolescence, j'ai l'impression que c'est là où ils font leurs expériences. Et moi, j'ai un garçon et une fille. Donc, je vois tout à fait, et vraiment, on est dans les clichés, et j'ai horreur de ça, mais on est vraiment dans les clichés. TikTok, jeux vidéo, et vraiment, c'est les conversations, c'est 99% des conversations. Donc c'est vrai que ça occupe beaucoup de leur esprit, etc. Mais au moment où on va passer sur mon fils commence à grandir et commence à s'intéresser plus à la mode, hein, maintenant, 90% de ces conversations, c'est des marques de fringues, etc. Donc je sens que c'est en train de changer, mais par contre, c'est vrai que chez les adolescents, c'est le sujet numéro un de conversation. Chez les garçons, c'est ça. Chez les filles, ça va être plutôt les vidéos TikTok, les vidéos qu'elles regardent par rapport aux produits de beauté. Et ouais, vraiment, je suis désolé d'être dans ces clichés-là, mais je le vis au quotidien. Et on le voit dans les études statistiquement et dans la clinique aux États-Unis avec qui j'ai travaillé. Ils ont exactement ça, jeux vidéo et addiction entre guillemets aux jeux vidéo, 90% de garçons. Problème d'image du corps et de médias sociaux, 90% de filles. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
Après, il y a tout un marketing qui est là.
Ah oui, alors marketing, parce que, voilà, contribue, bien sûr.
Il y a
sûr,
des jeux vidéo, ils ont sorti des séries, vous pouvez acheter tout ce qui va avec. Ma génération à moi, c'est revenu après, c'est marrant, c'était cyclique, c'était Star Wars. Alors nous, on a eu les premiers Star Wars quand c'est sorti, mais tout le monde ne parlait que de ça. Alors il y avait un peu moins d'objets marketing. Après, il y a eu la deuxième vague des Star Wars. Alors là, c'était fini, tout le monde avait son costume, sa tasse, son stylo, son... Après, moi, j'aimerais juste rebondir, mais ça, c'est aussi personnel comme avis, sur le fait qu'ils veulent tous devenir champions de e-sport et ils ne se rendent pas compte de ce que ça implique. Mais ils veulent aussi tous devenir, enfin, beaucoup veulent devenir champions de foot. Ouais. Beaucoup veulent être millionnaires et gagner. À 25 ans, je suis millionnaire et puis j'ai une super voiture et une super meuf, comme ils disent tout le temps. Et ouais, malheureusement, c'est quand même un peu... Et ça, c'est des plus grands que les ados. Hein. J'ai travaillé avec des apprentis. Et c'était clairement ça, il y a ce décalage entre... ils ont des rêves qui, bien sûr, ne sont pas réalistes, mais quelque part, je trouve que c'est important de ne pas les casser, mais c'est important de leur montrer, en fait, pour arriver là, il y a tout ça. Et où est-ce que t'en es, toi? Et est-ce que c'est vraiment là? Et quand vraiment on arrive à les mettre dans cette réflexion, là, c'était au poste obligatoire, mais la majorité, tout à coup, ils tiltent.
Et soit ils disaient, ah, mais non, mais en fait, je disais ça juste pour rire. Ou alors, ah ben en fait, je me rends compte que ce sera peut-être pas à 25 ans et que peut-être qu'il faut que je me mette à bosser un peu plus si je veux arriver à ça. Donc, je pense que le rêve, il est aussi important. Il est souvent démesuré. On est aussi passé par là. On n'avait peut-être pas les mêmes, mais on est aussi passé par là. Donc, je pense qu'il ne faut pas le démonter. Mais c'est important aussi de ne pas aller leurrer et de dire, bah, OK, moi, c'est bon si c'est ça, mais voilà tout ce qu'il faut faire avant.
Encore une question là, oui. Après, c'est encore peut-être une dernière question générale, libre. Mais effectivement, il est 15h40. Donc,
c'était un petit peu la même question, mais dans l'autre sens. En fait, est-ce qu'il ne faudrait pas s'emparer du jeu vidéo comme d'un moyen d'apprentissage en classe? Moi, je suis pas enseignant, je suis développeur pour le service École Média. Je m'occupe notamment de Cortex. Et Cortex, c'est justement une application où on a des petits jeux de type associatif ou mémorisation. Pour favoriser l'apprentissage des langues, par exemple. Est-ce que ça, et puis les méthodes, vous parlez de méthodes d'entraînement, est-ce que la répétition espacée est comparée à d'autres méthodes d'apprentissage pour voir s'il y a des meilleurs résultats combinés aux jeux vidéo, ou est-ce que pas du tout? Voilà, c'est un peu le sens de ma question.
Alors là, par rapport à la méthode, enfin la pratique distribuée, ça c'est quelque chose qui est commun à tout apprentissage. Donc c'est depuis... Il y a des choses qui sont... connu depuis le début des années 1900. Vous devez être en zone proximale de développement. Enfin, voilà, la tâche qu'on vous... Enfin, je pense que vous connaissez tous ça. Il faut que ce soit un petit peu le challenge, mais pas trop. Autrement, on est démotivé. Si c'est trop facile, on est aussi démotivé. Donc, il y a toutes ces mécaniques qui ont été utilisées justement pour développer les jeux. Donc, ce n'est pas des choses qui sont venues avec les jeux. Tout le fait d'utiliser un système de récompense, d'avoir des moments de repos, des moments où c'est plus intense, tout ça, c'est sur des théories qui existaient, des choses déjà depuis très longtemps. J'ai perdu le fil de votre question.
En gros, c'était juste que intégrer les jeux vidéo, puisque c'est au centre des discussions.
Oui, alors il y a beaucoup de ça.
Dans la classe et dans l'apprentissage.
Ouais. Alors, j'entends que vous faites des choses au service École Média. Il y a toute une section en faculté de sciences de l'éducation qui s'appelle TECFA, qui développe justement des outils pour être utilisés en classe. Maintenant, il y a une différence entre... prendre une tâche ou prendre un objectif que les élèves doivent apprendre et ce qu'on appelle le gamifier. Donc, on va développer un jeu pour apprendre cet objectif-là ou ce qu'il faut apprendre, ce qui n'est pas du tout la même chose qu'utiliser un jeu vidéo. Un jeu vidéo n'a pas vraiment un objectif d'apprentissage en soi. Donc, on perd déjà une partie. Les enfants ne sont pas dupes. Hein. Des fois, ils se rendent assez vite compte qu'on veut leur faire apprendre un truc et du coup, ils perdent la motivation parce que ce n'est pas du tout la même chose qu'un jeu. Mais je sais qu'il y a plein de choses qui sont développées et qui peuvent très bien fonctionner. Typiquement, nous, on a le jeu d'Angela qu'elle a développé, qui là a vraiment été développé dans un objectif d'apprentissage pour améliorer, enfin pour aider à l'apprentissage à la lecture, mais où vous allez faire des tâches qui n'ont rien à voir avec la lecture, mais qui apparemment, parce que justement, elle a implémenté toutes ces mécaniques de jeux vidéo d'action, etc. et qui semble effectivement aider à l'apprentissage de la lecture.
Il va être disponible,
ce jeu ? Alors, entre le moment... Il est encore en phase de test. Il y a des brevets en cours et tout ça, mais encore en phase de test, parce qu'il y a eu une première étude qui a été faite sur des échantillons italiens, et là, on est en train de répliquer sur francophone, anglophone et italien aussi.
Et allemand.
Et par rapport au jeu, en fait, ce que le jeu permet, qui est vraiment nouveau par rapport à d'autres façons d'enseigner, c'est que dans un jeu, vous pouvez évaluer et adapter l'entraînement à la personne. Donc, vous pouvez individualiser l'éducation à l'individu qui joue le jeu. C'est-à-dire que le jeu, s'il est trop difficile, il va s'en rendre compte. Hein. Vous avez un nombre d'étoiles qui vous dit si vous avez bien performé ou pas. Et du coup, en fonction de ça, le niveau peut s'adapter pour arriver à un objectif qui est prédéfini. Donc ça, c'est le caractère intéressant du jeu, mais ce n'est pas lié au fait que ce soit un jeu vidéo, c'est lié au fait que on a un traitement de données en boucle. Quoi.
Oui, c'est souvent
ça. Oui, c'est l'IA souvent qui fait ça. Mais c'est ce qu'ils appellent les closed loops, c'est-à-dire que ce que la personne fait est enregistré, puisque c'est un ordinateur, et puis on peut utiliser ça pour adapter ce que la personne va faire après. Et donc, on peut favoriser ou pas l'entraînement d'une personne qui a des difficultés ou qui, au contraire, apprend rapidement. Et voilà. Donc, ça s'adapte. C'est ça qui est... C'est ce qui, dans une classe avec des bons élèves et des mauvais élèves, demande au professeur d'aller voir les bons élèves pendant que les autres s'ennuient. Enfin, voilà. C'est complètement différent. Donc, je ne veux pas faire l'apologie des technologies pour l'éducation, mais un des aspects vraiment bénéfiques, c'est celui-ci. Et pas que dans l'éducation, hein, dans le diagnostic médical aussi. C'est-à-dire que vous pouvez, maintenant, on a une collègue qui travaille à l'université et qui utilise tous les objets connectés. Parce que maintenant qu'on a tous des montres, des machins, en fait, à partir de ça, automatiquement, on peut déterminer votre qualité de sommeil, votre niveau de stress. Donc, c'est aussi utile, la technologie, par rapport au fait qu'elle permet d'accéder à des informations qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir sans la technologie.
Alors, on va quand même devoir s'arrêter. Si vous êtes capable, en 30 secondes, de l'un puis l'autre, de peut-être de dire un mot de conclusion, mais vraiment en 30 secondes, comme ça, on ne finit qu'avec 15 minutes de retard. Je vous propose de faire ça. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne,
30 secondes sur la conclusion. Moi, je dirais que si on devait répondre à la question de départ, parce que c'est souvent ça, bon ou mauvais, je dirais ni l'un ni l'autre. En fait, ça dépend des utilisations. Et je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse donner et que ce ne soit pas spécifique aux jeux vidéo. C'est vrai pour tous les écrans et pour tous les âges et pour toutes les utilisations. Donc, c'est avoir une approche un peu nuancée.
Sylvie, il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est exactement ça.
Cette conclusion était parfaite. Merci beaucoup. Oui. Merci à tous. Merci à Sylvie Dantinger.
Merci à vous pour votre temps.
SEMcast, les podcasts du SEM.
Service, école, médias.
SEMcast,
votre rendez-vous numérique et pédagogique.